Vous êtes sur RTL.
Taille dès 7h15. Nous sommes le vendredi 22 janvier 2021. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Se dirige-t-on vers une nouvelle année sans bac? Les premières annonces hier soir n'incitent guère à l'optimisme.
Et les épreuves de spécialité prévues en mars sont annulées. Marie Guerrier en studio avec nous pour les dernières informations. Tous les Français auront été vaccinés d'ici le mois d'août. Le pari semble aujourd'hui intenable. C'est pourtant la promesse d'Olivier Véran, vous l'entendrez. Face aux variants, la France se barricade. Un test PCR désormais exigé pour tous les étrangers. Y aurait-il une liberté d'expression à deux vitesses au Monde? Polémique après le départ d'un dessinateur du journal. Et puis nous prendrons également des nouvelles de cet homme, greffé il y a 10 jours des deux épaules et des deux bras. Quelques douleurs mais un gros moral.
La politique, Olivier Bost.
Et il est désormais beaucoup plus probable d'avoir un nouveau confinement que d'y échapper. C'est l'état d'esprit ce matin à tous les étages du pouvoir.
Explication dès la fin du journal.
RTL Matin.
Il y avait peu d'espoir de maintenir les épreuves de spécialité du nouveau bac en mars prochain. Il n'y en a plus du tout ce matin. Elles sont tout simplement annulées. Décision hier soir du ministère. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Une annulation décidée donc plutôt qu'un report.
Oui, alors ces épreuves de spécialité devaient se tenir sur 3 jours en mars. Le ministre n'a pas voulu reporter en juin ces 3 jours d'examen, comme le demandaient les syndicats, parce que ça revenait finalement à recréer le bac ancienne formule avec l'obligation de fermer les lycées en juin pour organiser toutes les épreuves. Et donc supprimer des cours, et ça Jean-Michel Blanquer n'en veut plus. Donc les élèves seront évalués sur leurs deux spécialités avec la moyenne des notes obtenues tout au long de l'année sur les 3 trimestres de terminale.
Alors le contrôle continu, on le sait, pose toujours question. Comment garantir l'égalité des notes d'un lycée à un autre?
Des modalités seront définies, un nombre minimal de notes avec des devoirs sur table type bac. Il faudra une réflexion sur la notation au sein des établissements et une procédure d'harmonisation. Un guide et un cadre de travail seront communiqués début février pour que les notes soit le plus objectif possible.
Bon, finalement, ce bac 2021, cette réforme tant attendue, on en est loin quand même.
Oui, les élèves de terminale privés aujourd'hui d'épreuves de spécialité n'avaient déjà plus d'épreuves communes de contrôle continu. Et l'an dernier, ils n'ont pas passé le bac de français. Alors pour l'instant, il leur reste l'écrit de philo le 17 juin et le grand oral, cette nouvelle épreuve, fin juin, début juillet. La philo où exceptionnellement, il y aura 3 sujets de dissertation cette année au choix, au lieu de 2 pour laisser aux élèves davantage de chances de réussir.
Explication de Marie Guerrier.
Et je vous rappelle que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est l'invité d'Alba Ventura à 7h40.
La menace d'un 3e confinement de nouveau brandi hier soir par le ministre de la Santé, invité du 20h de TF1. Si la situation se dégradait en raison des variants, alors oui, les règles pourraient encore se durcir. Olivier Véran qui, à son tour, demande aux Français de ne plus utiliser les masques en tissu fait maison. Pas assez efficace pour se protéger des variants. Et puis le ministre, interrogé enfin sur les lenteurs de la campagne de vaccination, a une nouvelle fois défendu sa stratégie. Dans 95% des cas, tout se passe bien, selon lui. Olivier Véran, qui est même venu hier soir avec de nouveaux objectifs, chiffrés de manière très précise.
Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Ça, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. Ce serait évidemment une formidable nouvelle si tous ces vaccins étaient efficaces et que nous pouvions protéger la population française dans sa totalité en moins de 6 mois.
Olivier Véran hier soir aux 20h de TF1.
Mais d'ici là, vous l'avez bien compris, il y a urgence à gérer et à freiner la propagation des nouveaux variants.
Et cela passe inévitablement par la limitation des déplacements entre pays. Les membres de l'Union se sont entretenus hier sur le sujet et les 27 sont tombés d'accord, déconseillant fortement tout voyage non essentiel. La France, Bénédicte Tassard, a décidé d'aller encore plus loin et d'exiger dès dimanche minuit un test PCR négatif pour tous les étrangers, y compris pour nos voisins.
Et oui, Emmanuel Macron a prévenu ses homologues hier soir pour venir en France à partir d'après-demain. Les Belges, les Italiens, les Suédois, bref, tous les Européens devront présenter un test réalisé 3 jours avant leur départ. C'est conforme à la résolution prise il y a quelques heures par les 27. Pas de confinement général, on n'interdit pas, mais on décourage tous les voyages privés pour voir votre famille ou faire du tourisme. Un durcissement attendu aussi dans les autres pays. Et les zones où les variants du Covid circulent le plus vont également être la cible de mesures supplémentaires, annonce la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Nous proposons donc d'introduire une nouvelle catégorie, rouge foncé, là où le virus circule très vite. Les voyageurs venant de ce périmètre rouge foncé devront se faire tester avant leur départ et seront mis en quarantaine à leur arrivée.
L'Union européenne serre donc une nouvelle fois la vis, mais évite un nouveau confinement général.
Bénédicte Tassard.
Il avait suivi la semaine dernière une opération exceptionnelle, greffe des deux épaules et des deux bras. Des nouvelles de ce miraculé de la science dans un tout petit instant dans notre édition. Il est 7h05.
Hibou, meublez-vous.
RTL Matin.
7h06, la suite du journal de Dominique Tenza. C'était il y a 10 jours à l'hôpital de Lyon. Cette incroyable opération sur un patient de 48 ans.
Amputé des deux bras dans sa jeunesse après une électrocution. Félix Grétarsson, un Islandais qui vit depuis plusieurs années en France, avait pu bénéficier d'une greffe inédite. Les deux épaules et les deux bras. Sa rééducation devrait durer 2 ans, mais les premières nouvelles données par sa femme ce matin sont très encourageantes.
Les bras et les mains sont assez chaudes. Au tout début, c'était un peu plus froid et donc il y a de plus en plus des sensations. On a vraiment, quand on touche et on regarde ses mains et ses bras, ça a l'air tellement naturel en fait. Quand je l'ai vu ce matin, c'est vrai qu'il y avait un micro-mouvement. Il m'a montré, regarde, et en fait, voilà, il pouvait bouger la partie haute de son bras, mais vraiment, c'est un micro-mouvement. Mais c'est vrai que pour lui, c'était une grande chose.
Un propos recueilli par Frédéric Perruche. Le frère de Camille Kouchner, victime présumée des abus sexuels commis par Olivier Duhamel, a été entendu hier par les enquêteurs, âgé aujourd'hui de 45 ans. Il est longuement revenu sur les faits récemment révélés par sa sœur dans un livre. Et dans ce contexte de libération de la parole autour de l'inceste, un dessin publié sur le site internet du journal Le Monde est loin d'avoir fait l'unanimité, suscitant même une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Le Quotidien a alors présenté ses excuses. Ce que n'a pas du tout apprécié l'auteur du dessin, Xavier Gorce. Il a choisi de quitter le journal avant-hier, ravivant encore un peu plus la polémique, Laurent Marsic.
Oui, un peu plus de 48 heures après avoir claqué la porte du journal Le Monde, le dessinateur Xavier Gorce ne décolère pas. Oui, dit-il, le journal a commis une erreur en s'excusant pour la publication d'un de ses dessins.
Je ne suis pas très satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire, de la façon dont Le Monde a géré la réception du dessin sur les réseaux sociaux. C'est quelque part se mettre une laisse autour du cou que de réagir en fonction des réactions, quoi.
La liberté ne se négocie pas, écrivait sur les réseaux sociaux Xavier Gorce après les excuses du journal. La liberté, la sienne, mais au-delà, celle des dessins de presse qui disparaissent peu à peu des quotidiens.
Après, on finit par se dire que pour faire un dessin qui ne heurte pas les sensibilités, il va falloir faire des dessins qui ne parlent plus des sujets préoccupants ou des sujets douloureux. C'est dramatique. Et puis bon, je voudrais rappeler quand même que le dessin d'humour, c'est de l'humour. Le dessin d'humour devrait presque permettre, à un moment donné, de rire ensemble sur un sujet que d'aller s'écharper sur tel ou tel dessin, quoi.
Et pour la suite, Xavier Gorce promet qu'il ne rangera ses crayons pour rien au monde. Il réfléchit désormais à pouvoir offrir directement ses dessins aux lecteurs.
Laurent Marsic.
7h09, direction le territoire de Belfort. Pour terminer ce journal, on va chausser les crampons.
Et partir s'entraîner avec les footballeurs de Grand-Villard. Le club évolue en National 3, mais pas facile de s'entraîner avec le couvre-feu. La solution, les séances du soir ont désormais lieu le matin, très tôt le matin, Dimitri Ramelot. Oula.
Première consigne à la lueur des 4 projecteurs du stade.
2 minutes d'étirement actif. Certains, mettez le radio réveil, les gars. Oh, vous rigolez ou quoi?
Christophe Lopez, entraîneur de l'US Grand-Villard, réajuste son bonnet.
On a eu moins 7, moins 8. Ce matin, il fait 8 degrés.
Et le groupe de 15 joueurs, survêtements et gants, s'élance sous le regard du technicien. Les plaques de neige sur le synthétique compliquent le réveil musculaire. Coup d'œil sur la montre, 6h43.
L'idée, c'est de maintenir les garçons en éveil, puisqu'à tout moment, aujourd'hui, on peut reprendre. Donc, il faut qu'on se donne les moyens d'être opérationnel le jour J.
Car le dernier match a eu lieu mi-octobre. Une éternité pour les organismes, impossible de rester à la maison pour le milieu offensif surnommé Bébéto.
Ça part d'une bague de vestiaire, donc nous, le coach nous annonce ça, on tombe un peu des nus, et franchement ça se passe super bien et tout le monde est content d'être là.
Et l'entraîneur Christophe Lopez, ancien membre de staff professionnel arrivé 2 saisons plus tôt, ne voyait pas d'autre alternative.
Il y en a marre de rien foutre, oui. Quand on a un couvre-feu à 18h, on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions le matin de bonne heure. Ils m'ont pas forcément sauté au cou, hein. Mais bon, ils sont là aussi pour faire leur job.
Et si tout le monde a adhéré, chacun a dû s'adapter à l'horaire et au conditions comme l'impossibilité d'utiliser les vestiaires.
On est obligé d'arriver habillé pour aller directement sur le terrain. Et juste après la séance, on n'a pas de douche.
Seule exception pour ceux qui partent directement au bureau comme Romain, milieu relayeur et attaché parlementaire.
On n'est pas beaucoup dans ce cas-là, mais c'est vrai que la douche, c'est toujours en plus un plaisir après l'entraînement.
Fin de la séance, 7h45, café et croissant au Clubhouse. Prochain entraînement matinal mardi prochain, en espérant encore moins de neige et une température clémente.
On l'espère pour eux. Dimitri Ramelot. Et puis Milik, l'attaquant polonais prêté par Naples pour 18 mois, est enfin arrivé à l'Olympique de Marseille. Il a signé hier soir et pourrait donc jouer dès demain, 21h face à Monaco.
Les courses, elles ont lieu donc à Cannes-sur-Mer aujourd'hui.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 11, l'As, le 4, le 13, le 8, le 5 et le 14. Et la dernière minute, c'est le 13 d'Evana Fucci.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h11, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nous allons être reconfinés, il ne reste plus qu'à savoir quand, c'est bien ça?
Oui, le ministre de la Santé, le Premier ministre le disent désormais clairement. Il n'y a aucune raison qu'on échappe au variant anglais et à sa fulgurante contagion. Il suffit de regarder ce qui se passe chez tous nos voisins. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas sont confinés. Sur la carte d'Europe, nous sommes cernés. En France, au sommet de l'État, voilà ce qui se dit. Les mois de février et de mars seront difficiles. Il va falloir tenir le choc. C'est loin d'être terminé. En fait, tous les étages de décision, des autorités scientifiques jusqu'à l'Élysée, ne sont plus suspendus qu'à des chiffres. Si le variant anglais se propage très vite, le reconfinement est une question de jours. Si sa diffusion est plus lente, le suspense peut durer encore quelques semaines. Nous allons de nouveau attendre, anxieux, les annonces du jeudi. Les chiffres de circulation du variant anglais seront réactualisés en début de semaine prochaine. Pour l'instant, ces chiffres ne se sont pas envolés.
Est-ce que ça veut dire un confinement comme nous l'avions connu au printemps dernier ?
Alors non, avant la fermeture générale, il y a encore une dernière option, un confinement, en fait, comme à l'automne dernier, c'est-à-dire en gardant les écoles ouvertes et en fermant tout le reste. Emmanuel Macron et Jean Castex tiennent beaucoup à ce que les écoles restent ouvertes. Ce qui n'est pas envisagé, en revanche, c'est le couvre-feu pendant tout le week-end ou une interdiction de circuler entre les régions, tout simplement parce qu'il n'y a pas de grosses différences d'une région à l'autre. La question, en fait, pour le gouvernement est plutôt de savoir s'il fait un confinement préventif pour faire baisser les chiffres avant qu'ils s'envolent ou s'il attend encore un peu.
Bon alors avec ces confidences, n'êtes-vous pas, Olivier, tout simplement en train de préparer les esprits ?
Bah non, parce qu'ils le sont déjà. Les Français sont très majoritairement prêts à un reconfinement. Certains même le souhaitent, comme nous le voyons dans notre sondage BVA d'aujourd'hui pour RTL. 37% des Français veulent des mesures plus dures. Ce qui veut dire que l'annonce sera acceptée et donc respectée, juge-t-on à Matignon. Des Français anxieux se disent que c'est peut-être un moyen de s'en sortir. Il reste de l'espoir en quelque sorte. Et puis, un ministre fait un constat simple. La peur du virus est très présente, donc les gestes barrières sont respectés.
Et puis, nous devrions être vaccinés d'ici l'été.
Oui, tous les Français vaccinés d'ici la fin août. Vous l'avez entendu dans le journal de 7h. Si toutes les autorisations, bien sûr, sont données en temps et en heure. C'est la promesse un peu incroyable, en fait, qu'a fait le ministre de la Santé hier. Cette date redonne, en fait, une perspective. Dans une période où nous sommes suspendu à la semaine prochaine tout au plus. Fin août, ça serait la sortie du tunnel, l'espoir d'un retour à une vie presque normale. Une bonne nouvelle pour dans 7 mois, c'est pas mal, juste avant de retomber dans un confinement.
Olivier Bost, toute l'actualité politique est à retrouver sur le site RTL.fr et nous vous le rappelons une fois de plus, c'est bien le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40, l'école qui doit s'adapter face à la menace sanitaire. Rendez-vous donc dans une petite trentaine de minutes. Dans un instant, enquête passionnante sur notre brigade de l'actualité sur les antennes relais en France, 121 dégradations recensées depuis le mois de mars. On vous explique tout cela dans un instant.
Besoin. Land Rover. Yves Calvi. RTL Matin.
RTL vous le révèle ce matin, 121 antennes relais de téléphonie ont donc été dégradées depuis le mois de mars à travers le pays, ce qui engendre des perturbations de nos liaisons téléphoniques et qui nous prive parfois de télévision, de radio, comme à Marseille, il y a quelques semaines où il n'était plus possible, par exemple, de capter RTL. 121 antennes dégradées, un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes. La défiance à l'égard des installations de télécommunications prend de plus en plus d'ampleur. Bonjour Gauthier Dulombugard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin à Jarry en Isère, l'antenne relais de cette commune qui domine le bassin grenoblois a été attaquée à plusieurs reprises ces derniers mois.
À la sortie du village, une légère couche de neige recouvre les champs. Quelques promeneurs empruntent ce chemin boueux.
L'antenne relais, elle est au bout de ce chemin.
Entre 5 et 10
000. Au loin se dresse une imposante tour surmontée de paraboles et d'antennes de téléphonie. Le local technique de l'édifice a été incendié à deux reprises en seulement quelques mois.
En ce lundi 18 mai, mais qui veut la peau des antennes relais? La nuit dernière à Grenoble, ce sont deux relais de télédiffusion qui ont été incendiés.
Après quelques minutes de marche, me voici au pied de la tour. La sécurité semble avoir été renforcée avec cette clôture barbelée qui surmonte le grillage pour éviter toute nouvelle intrusion.
On va désormais se rendre à un peu plus d'un kilomètre de là, dans le centre-ville, pour rencontrer le maire et les habitants afin de comprendre les conséquences de ces dégradations. Bonjour.
Bonjour, je suis chez Bouygues et je pouvais appeler personne. J'avais beau éteindre, mettre, charger, j'avais pas de réseau du tout. Ça a duré 2-3 jours hein, quand même. Hein.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur le maire.
Raphaël Guerrero, maire de Jarry. Condamne toujours ça, je pense qu'on est dans un pays, on a le droit de s'exprimer, on peut s'exprimer autrement qu'en brûlant des antennes relais.
Deux autres pylônes ont été incendiés la même nuit dans le secteur, perturbant aussi la réception de plusieurs stations de radio, dont RTL. Des actes dénoncés par les opérateurs. Nicolas Guérin préside la Fédération des Télécoms.
Vous vous retrouvez avec des centaines, des milliers de gens qui n'ont plus accès à Internet via leur mobile, qui ne peuvent plus communiquer et il faut des jours, des semaines pour réparer. Il est absolument anormal et scandaleux de leur couper les services dont ils ont tant besoin au quotidien.
Les opérateurs tentent de mieux sécuriser les antennes. Difficile cependant d'assurer la surveillance autour des 55 000 sites à travers le pays.
Gauthier, ces dégradations s'inscrivent dans un mouvement global de protestation. Dans nos villes, dans nos villages, de plus en plus de citoyens se mobilisent contre l'implantation des antennes relais.
Oui, pour le comprendre, direction Teche, à 45 km de Grenoble, un bourg de 600 habitants au pied du massif du Vercors. L'opérateur Free vient d'installer une antenne 4G. Un projet de 5G est également en cours.
On est à 30 mètres de l'antenne, 100 mètres de l'école.
Denis Falk, l'ancien maire, est à la tête d'un collectif d'une centaine d'habitants opposés depuis des mois à cette antenne.
Il y a un monsieur là qu'ils ont fait construire. Il a fait une grande baie vitrée pour voir le Vercors. Au milieu, maintenant, il y a une charpente métallique.
Une antenne comme ça, normalement, c'est une dévaluation du bien foncier qui peut aller jusqu'à 30%.
On n'est pas contre le progrès, mais je pense qu'il y avait d'autres moyens de mettre cette antenne ailleurs.
Tous s'inquiètent des effets des ondes sur la santé.
Il y a des personnes qui sont sensibles aux ondes millimétriques.
Ça développe donc des migraines, des nausées, des vomissements.
Les ondes sont dangereuses et surtout la 5G.
L'OMS classe les rayonnements électromagnétiques parmi les cancérigènes possibles, mais les opérateurs répondent qu'à ce jour, aucune étude ne prouve la dangerosité des antennes. Dans tous les cas, les opposants ont peu de moyens pour agir et obtiennent rarement gain de cause.
On a décidé de rester dans la légalité, c'est pour ça que je ne me suis pas accroché, comme je l'avais dit à l'antenne.
Mais on comprend les colères que peuvent avoir certains parce qu'ils ne sont pas écoutés, pas entendus. Ça finit par de la violence.
Ces habitants se disent pacifiques. Alors, qui se cache derrière les dégradations?
Eh bien, les trois incendies du printemps dernier en Isère ont été revendiqués sur un site internet proche de l'ultra-gauche, au sixième étage du palais de justice de Grenoble. Le procureur Éric Vaillant suit ces dossiers de près.
Les enquêtes sont toujours en cours et n'ont pas permis l'interpellation de suspects. Ça veut dire qu'ils prennent des précautions suffisamment bonnes et importantes pour se mettre à l'abri. Nous attribuons donc souvent ce type de dégradation à l'ultra-gauche. Ça ressemble à leur manière de fonctionner. Ils revendiquent ces actions et ils appellent à la dégradation donc des antennes relais. On ne peut pas exclure aussi qu'un certain nombre de complotistes sont à l'origine de ces actes.
Des dizaines de dossiers ont abouti l'année passée sur tout le territoire avec des interpellations à la clé et les profils sont très variés. Dans le Jura, par exemple, deux hommes condamnés à 3 et 4 ans de prison ferme se disaient écologistes et anti-5G.
Merci Gauthier Delambugard, reportage à Jarry en Isère, 7h20. Nous allons donc revenir sur ce chiffre qu'RTL vous révèle depuis ce matin. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
121 antennes relais ont donc été vandalisées depuis mars dernier et le premier confinement.
Oui, c'est le tout dernier décompte qu'RTL s'est procuré auprès des enquêteurs en charge de ces dossiers. 121 antennes incendiées, sabotées, des sites sur lesquels des câbles ont été sectionnés avec soin, des dégradations particulièrement régulières sur la période avril-juin 2020 en zone rurale essentiellement, puisque c'est là que sont installer les antennes, et le plus souvent dans le sud-est du pays.
Alors, où en sont les enquêtes et est-ce que les auteurs de ces sabotages ont été identifiés?
Alors oui, certains suspects ont été arrêtés, c'est le cas pour une trentaine d'enquêtes, mais ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas un profil type, anti-5G, ultra-jaune, phénomène de mimétisme, ultra-gauche. Les individus interpellés jusqu'à présent ont entre 20 et 50 ans, issus de toutes les catégories socio-professionnelles.
Alice, on a entendu les arguments des écologistes, des anti-5G, mais pourquoi les soupçons pèsent sur l'ultra-gauche spécifiquement ?
Eh bien d'abord parce qu'elle revendique parfois clairement ces dégradations. Prenons l'exemple de ce message toujours en ligne sur le blog Indie Média rattaché à l'ultra-gauche. Nous avons incendié l'antenne de Haute-Jarry dans la nuit du 17 au 18 mai. C'est là que Gauthier de Lombuguer est allé enquêter, oui. On l'a entendu à l'instant. Et puis on peut encore aujourd'hui trouver des modes d'emploi. Comment détruire des antennes relais sur des sites internet d'ultra-gauche ? Le matériel nécessaire, la méthode, toutes les précautions à prendre. Une sorte de petit manuel pour débutants.
Pourquoi l'ultra-gauche vise-t-elle ses antennes ?
Eh bien parce qu'elle symbolise, selon eux, la société capitaliste. Surtout à l'heure de la crise sanitaire où le télétravail s'est démocratisé pendant les confinements. Les télécommunications sont devenues essentielles au fonctionnement des entreprises. S'attaquer aux antennes relais, c'est pour eux un moyen de désorganiser l'État. Les antennes relais défigurent les paysages, peut-on lire par exemple sur un blog d'ultra-gauche dans un écrit qui se veut philosophique. Les babillages et bavardages des masses révèlent le véritable vide communicationnel.
Eh ben voyons. Et les antennes sont des cibles faciles, Alice ?
Oui, elles sont isolées en zone rurale. Les individus auteurs de dégradation s'y rendent de nuit, à vélo. Le matériel nécessaire, un petit pneu de brouette par exemple, quelques chiffons et un produit inflammable suffisent à incendier une antenne. Tiennent dans un sac à dos. En un quart d'heure, l'opération est réalisable. C'est en tout cas ce que suggère le fameux tutoriel disponible en ligne. Et puis s'attaquer à du matériel évite des poursuites plus lourdes. Et ça, l'ultra-gauche l'a bien compris. Ne pas s'en prendre à des cibles humaines. Mener une action directe mais discrète, c'est la doctrine. Le parquet antiterroriste, par exemple, n'envisage pas de se saisir de ce type de dossier.
Merci beaucoup Alice Moreno pour cette enquête très complète. On retrouve notre brigade de l'actualité sur RTL dans une heure avec Sophie Ranche et nous vous donnerons une photographie très précise de la situation sanitaire. Qui est contaminé par le virus? À quel endroit? Les toutes dernières statistiques juste après notre journal de 8h. Dans un instant, le bulletin météo de Louis Baudin pour notre week-end. Nous allons surveiller l'arrivée de la tempête Hortense, hein, vous le savez. Nous retrouverons aussi nos grosses têtes et puis la pépite musicale d'Anthony Martin dans un tout petit instant.
Information sur Lidl.fr.
RTL Matin, Yves Calvi.
Grand bonjour Anthony Martin.
Bonjour et bonjour à tous.
Il est temps de retrouver et de découvrir votre pépite musicale du jour.
Alors on va faire un tour dans le joli répertoire de Michel Delpech ce matin. Au début des années 70, sous la présidence de Pompidou, il faut rappeler que les politiques parlaient déjà de la fin de la 5e République. Mmh. Et Michel Delpech était parti de ce postulat pour évoquer avec finesse et poésie les 5 enfants de Marianne, autrement dit les 5 républiques. Avec un petit coup de griffe au passage, Marianne, écrit-il, ne se reconnaît plus dans son 5e enfant. Voilà comment Michel Delpech a écrit les paroles de la chanson que Marianne était jolie. Succès instantané en 1972. La version qu'on va écouter se trouve dans l'album Hommage à Michel Delpech, J'étais un ange, sorti en novembre 2016, 10 mois après la disparition du chanteur. Michel Delpech avait eu le temps de travailler sur ce projet. Il avait fait une liste de noms d'artistes à qui il voulait confier ses chansons pour des reprises. Et il avait souhaité la présence du duo Les Innocents. Oui. Il adorait leur mélodie, leur harmonie vocale. C'est notre pépite du jour. Les Innocents interprètent que Marianne était jolie.
Elle est née dans un Paris, 1790, comme une rose épanouie, au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants, qu'elle élève le son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant d'après le bois, ça ira, ça ira, toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie, quand elle embrassait le cœur de Paris, en criant dessus toi, ça ira.
De flâner. terminer avec légèreté.
Ah, c'est charmant.
Les Innocents revisitent de jolie manière, en effet, cette chanson de Michel Delpech, Que Marianne était jolie. Musique du compositeur attitré d'Eddie Mitchell. Oui. C'est Pierre Papadiamandis qui a composé cette chanson. Michel Delpech avait voulu travailler avec lui dans les années 70 et Delpech m'avait confié un regret, avoir laissé passer la mélodie qui avait donné plus tard la chanson La Dernière Séance.
Et oui.
Pour Eddie Mitchell, elle était finalement revenue à Monsieur Eddie.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à lundi pour une nouvelle série de pépites musicales et bien sûr à tout moment en podcast sur rtl.fr. Il est 7h27, rendez-vous dès 15h30 dans le grand studio pour retrouver les grosses têtes de Laurent Ruquier. Un peu de douceur ce matin, saviez-vous que Stéphane Plaza était aussi le nom d'une jolie rose bicolore ?
Peut-être vous avez même déjà une rose à votre nom, monsieur Plaza.
Oui, j'ai une rose à mon nom.
J'étais sûr.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, nous l'a offerte.
Pour
oui.
toutes ces conneries-là.
Elle est
là,
un peu non, jaune.
Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir parce que déjà, ma mère est fleuriste. Donc j'ai toujours été une fleur parmi les fleurs.
Bien sûr.
Voyez-vous, et j'ai vendu beaucoup des fleurs. Après, je suis passé aux appartements. La commission était un peu plus grande. Mais j'ai une rose, donc avec deux couleurs, bicolore. Jaune et rose.
Elle porte votre nom, la rose ?
Oui, la rose Stéphane Plaza.
C'est pas vrai.
Oui, c'est
parce que... c'est bien la première fois que Stéphane Plaza est cultivé.
Non, mais...
15h30, 18h, Laurent Ruquier reçoit aujourd'hui Titoff, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Stéphane Plaza et sa rose, Chantal Latsou et Stevie Boulet. Vous n'avez pas une fleur à votre nom, Louis Baudin ?
Ah non, non, pas de rose.
Je sens un peu de dépit, mais
tant pis. Bah oui, j'aime bien les roses aussi.
La météo ressemble à quoi avec la rose hortense ?
Ah bah, je me disais, hein, oui, la rose hortense, oui, bah ça c'est de l'agitation, hein, c'est du vent, des nuages, de la pluie, et on en a deux même en ce moment, parce qu'il ne faut pas oublier celle qui est passée hier sur la moitié nord et cette nuit là, qui a donné encore des rafales affrolant les 100 km heure, que l'on retrouve encore entre l'Île-de-France et le Nord-Est, avec encore des rafales de vent du côté de la Lorraine, sur l'Alsace, et puis effectivement, Hortense qui arrive dans le sud, là, qui balaye actuellement l'Aquitaine, avec beaucoup de pluie, de l'orage même du côté des Pyrénées, et les rafales de vent qui devraient, dans la matinée, atteindre ou dépasser les 100 km heure. Alors, cette même perturbation va traverser toute la moitié sud, consciencieusement, avec donc beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, beaucoup de neige sur les Pyrénées, sur le Massif central et sur les Alpes, en y arrivant cet après-midi. Le vent on va lui aussi traverser cette moitié sud, commençant donc par la côte aquitaine ce matin, puis allant ensuite en Méditerranée autour du golfe du Lion, Mistral et Tramontane vont dépasser les 100 km/h. Et aux extrémités de la Corse en fin de journée, on dépassera les 150 km/h. Donc beaucoup d'agitation dans le sud. Attention à cette neige qui va tomber en abondance sur tous les reliefs au-delà de 1200 mètres. Et puis pendant ce temps-là, quand même, au nord de la Loire, on devrait retrouver quelques belles éclaircies cet après-midi. Un peu plus de soleil de la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France ou encore au Nord-Pas-de-Calais. Et côté température, ça repart à la baisse. Pas de gelée ce matin, mais cet après-midi, 6 à 9 degrés seulement dans la moitié nord, 9 à 10 dans le sud-ouest et jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Louis Baudin, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 22 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et dans l'actualité, il y a un cold case en passe d'être résolu, l'affaire Jonathan. C'était en 2004. Le petit garçon de 10 ans avait été enlevé dans un centre de vacances en Loire-Atlantique. On l'avait retrouvé mort un mois plus tard. Affaire non élucidée. Mais il y a 3 ans, un tueur en série allemand a confié à un co-détenu que c'était lui qui avait commis le meurtre. Il s'appelle Martin Ney, alias l'homme en noir. Et cet homme va enfin être entendu en France aujourd'hui. La maman de Jonathan, Virginie, espère avoir enfin des réponses.
Pour moi, c'est une petite lueur d'espoir pour que je puisse faire déjà mon deuil et avoir un visage et un nom. J'ai besoin de ces réponses. De savoir ce qu'il lui a fait exactement. S'il lui a fait du mal, s'il l'a fait souffrir. J'ai besoin de ça. Même si ça fait mal, j'en ai besoin. Hein, je vis avec mon fils tous les jours avec moi. Je pense à lui tous les jours, d'ailleurs.
La maman de Jonathan au micro RTL de Thomas Proutot.
C'est donc l'information de la nuit. Dès dimanche, il faudra un test PCR négatif pour entrer en France.
Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir au Conseil européen. Seules exceptions, les travailleurs transfrontaliers et les routiers. Dans le même temps, l'Union européenne déconseille les voyages non essentiels. Ce qui inquiète particulièrement, ce sont les variants du virus, variants britanniques et sud-africains, des mutants très contagieux. En France, un reconfinement général n'est plus exclu. Olivier Véran l'a reconnu hier soir.
Nous continuons à traquer ce variant anglais partout où il se trouve. Si nous devions constater qu'il augmentait massivement et qu'il entraînait une vague épidémique, eh bien nous serions dans la même situation que celle dans laquelle se trouvent la plupart de nos voisins depuis des semaines et nous pourrions être amenés à prendre d'autres mesures type confinement.
Le ministre de la Santé qui estime par ailleurs que l'ensemble des Français pourraient être vaccinés d'ici fin août, ça tombe bien car désormais ils sont une majorité à vouloir se faire vacciner. 55% selon le dernier sondage BVA pour RTL. C'est une hausse de 11 points en un mois. Explication d'Adélaïde Zulfi-Karpasic de BVA.
Ce qui est frappant surtout, c'est la progression de la proportion de Français qui ont une intention très ferme de le faire, qui progresse de près de 20 points. On a un petit peu l'impression quand même, paradoxalement, que les débuts assez poussifs de la campagne de vaccination ont créé une sorte d'envie, comme si le manque potentiel de vaccins, la crainte d'être un petit peu lésée, avait suscité tout à coup un engouement.
Propos recueillis par Marie Mollet. Malgré tout, il y a toujours des réfractaires et notamment des personnes allergiques qui ont juste peur de se faire vacciner. Les allergologues sont assaillis de coups de fil en ce moment. La Fédération française d'allergologie se veut rassurante par la voix de son président Frédéric Deblay.
La population allergique n'est pas plus à risque que le reste de la population. Il y a quelques exceptions, mais qui sont tout à fait exceptionnelles. Si vous avez des antécédents d'allergie grave vis-à-vis de différents vaccins, ou si vous avez fait une allergie grave lorsque vous avez pris un médicament il y a de nombreuses années, mais vous ne vous souvenez plus lequel, alors il faut aller voir votre allergologue. Dans toutes les autres circonstances, il n'y a pas de contre-indication à se faire vacciner.
Frédéric Deblay avec Agathe Landé. Pour l'heure, plus de 823 000 personnes ont été vaccinées depuis fin décembre. Le nombre de contaminations ne faiblit pas. Près de 23 000 nouveaux cas en 24 heures et toujours plus de 2 800 malades en réanimation.
RTL 7h33 et dans ce contexte, les épreuves de spécialité du bac qui devaient se tenir en mars sont donc annulées.
Oui, elles sont remplacées par une note de contrôle continu. Les syndicats d'enseignants, eux, demandaient le report des épreuves en juin. En ce qui concerne les étudiants, Emmanuel Macron a annoncé hier un retour des cours en présentiel un jour par semaine. Le président promet également la création d'un chèque psy et des repas à 1 euro dans les restos U, repas à emporter. Des mesures qui laissent sceptique la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
C'était une de nos revendications, malheureusement. C'était pas du tout la seule. Et on peut pas répondre à la précarité en avançant au compte-goutte. Nous organisons des distributions alimentaires. On voit qu'on a des étudiants qui mangent une fois par jour. Donc le repas à 1 euro, certes, c'est positif. Mais aujourd'hui, on va retourner sur les campus qu'une fois par semaine. Donc on pourra bénéficier très peu de ce repas à 1 euro. Et ce qu'il faut faire maintenant pour répondre à la crise, c'est augmenter les bourses et les aides au logement.
La présidente de l'UNEF, invitée des petits matins d'RTL avec Julien Cellier. La reprise de Duralex, examinée cet après-midi devant le tribunal de commerce d'Orléans. Trois candidats ont déposé une offre, la plus crédible étant celle de Pyrex. Elle prévoit de reprendre l'ensemble des 248 salariés. Le foot, Marseille a trouvé son nouvel attaquant. Le Polonais Milik est prêté par Naples pour 18 mois avec option d'achat quasi automatique. Un renfort très attendu puisque l'OM reste sur 2 défaites à domicile. Mourir peut attendre, attendra encore. Le dernier volet des aventures de James Bond est à nouveau repoussé à cause de la pandémie. Il devait sortir le 2 avril, ce ne sera pas avant le 8 octobre si tout va bien. Et puis, lui, il avait doublé 6 James Bond. Rémi Julien, le roi de la cascade, vient de mourir. Il avait 90 ans, il a succombé au Covid-19. En un demi-siècle, il a réalisé près de 1400 scènes, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, de Fantomas à L'As des As. Sans lui, James Bond n'aurait pas existé, c'est ce que disait Roger Moore.
Bel hommage. Pour terminer, on va prendre des nouvelles de Jean-Louis Aubert.
Oui, le chanteur réédite aujourd'hui son dernier album, Refuge, et il sera le 12 février le président d'honneur des Victoires de la Musique. Ce sera sa première apparition publique après des mois de convalescence, car il a été opéré du cœur en juillet dernier. Il s'est retrouvé sur le fil de la vie, ce sont ses mots, et pourtant au départ, mais il allait très bien.
J'ai juste voulu vérifier si j'avais eu le Covid ou pas, mais mon médecin généraliste, qui est très malin, m'a dit « fais plutôt un scanner, on verra mieux ». Et le scanner disait que les poumons allaient très bien, mais que j'avais une malformation cardiaque et que je pouvais tomber à tout moment à partir partir du moment où je le savais. Bah, j'ai dit, bah, allons surtout demain. Voilà, je pensais que, comme d'habitude, je franchirais les haies, mais les haies, on sait jamais quelle hauteur elles ont. Et là, c'était quand même assez intrusif comme opération, puisqu'on m'a ouvert la cage thoracique et arrêté mon cœur pour changer son petit carburateur. Mais tout va bien, je crois. Je suis en pleine forme.
Pleine forme au micro RTL de Steven Bellery.
On va les retrouver tous les deux à 9h en long format dans Laissez-vous tenter. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la une.
Oui, on parlera des nouveaux jouets, des super riches, les squelettes de dinosaures, gros jouets.
Merci Isabelle Choquet et bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous nous donnez des nouvelles du transport maritime.
Oui, d'abord avec l'invention d'un moteur beaucoup moins polluant pour les navires. Et puis, l'explosion du trafic maritime, c'est tout à fait inattendu avec l'épidémie, mais les exportations mondiales...
Tardeise, journée étoilée.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
François, le Premier ministre, se rend au Havre ce matin pour inaugurer un nouveau monstre des mers.
Oui, c'est un gigantesque porte-container, en effet, qui sera le premier au monde de cette taille à fonctionner non plus au diesel, mais au gaz naturel liquéfié pour réduire la pollution. C'est un navire du géant français de l'armement maritime, CMA-CGM, c'est une compagnie familiale basée à Marseille, et c'est le numéro 3 mondial, derrière deux autres Européens, un Danois et un Italien. Il peut transporter 23 000 conteneurs. C'est un bateau de plusieurs centaines de mètres de long sur lequel on peut mettre l'équivalent de 47 000 voitures pour faire la route entre l'Asie et l'Europe. Ça fait 10 000 kilomètres. Hein.
C'est fascinant. Ça permet une réduction des émissions de carbone.
Oui, de 20%. Et puis, réduction également de la quasi-totalité de la pollution en particules fines et en dioxyde. Mais évidemment, avec un surcoût à l'achat, un navire au GNL coûte quelques 170 millions d'euros contre 140 pour un navire classique. Ce sont des chantiers navals chinois qu'ils fabriquent. Les Chinois sont désormais les seuls fabricants de porte-conteneurs avec les Coréens. CMA-CGM, notre armateur, opère plus de 500 navires dans le monde et il est en train de basculer sa flotte en propre sur cette nouvelle technologie de propulsion avec la commande de 25 bateaux fonctionnant au gaz liquéfié. Parce que le marché du transport intercontinental par bateau connaît un très vif redémarrage.
Comment se fait-il que ce transport redémarre alors que l'économie mondiale est en panne, François ?
Il y a plusieurs facteurs, le rattrapage du confinement, l'envolée des importations en provenance d'Asie, et puis dans une moindre mesure, la croissance des exportations européennes, françaises en particulier, qui se portent plutôt bien. À ça s'ajoute une incroyable pénurie de containers, ces boîtes en métal qui servent à transporter l'essentiel du commerce mondial, parce qu'au premier semestre de l'année 2020, à cause des perturbations causées par l'épidémie, par le confinement, bon nombre de ces boîtes ont été laissées en Europe et aux États-Unis, entreposées et vides, alors qu'elles auraient dû être ramenées en Asie, comme c'est le cas d'habitude. Du coup, il n'y en a plus assez en Asie pour assurer le transport de marchandises à destination de l'Occident, et les prix flambent. Le prix du transport, mesuré par ce qu'on appelle le Baltic Index, a été multiplié par 4 depuis 8 semaines.
Alors, tous ces chiffres sont très impressionnants. On a absolument besoin de containers pour transporter les marchandises ?
Oui, en fait, l'utilisation du container en métal à dimension standardisée a été la révolution technologique du transport intercontinental parce que elle a permis de mécaniser chargement et déchargement avec ces portiques géants qu'on voit dans les ports, vous savez, et oui, donc de baisser considérablement les coûts. L'invention du container, en fait, ça date des années 60-70. C'est méconnu, mais c'est en fait le vrai point de départ de la mondialisation, au moins celle des marchandises, parce qu'elle a permis l'essor du transport maritime. Aujourd'hui, ces caisses de métal indispensables ne sont plus fabriquées qu'en Chine.
Alors une dernière question de curiosité, combien coûte le transport de Chine jusqu'en Europe ?
Vous n'allez pas le croire parce que tellement le prix est faible, 4 euros par kilo pour faire 10 000 kilomètres, c'est-à-dire moins cher que si vous envoyez par la poste un colis du même poids d'un point à l'autre d'une même ville française.
Passionnant et perturbant, du début à la fin, L'Angle Écho avec François Langlais. Merci François, bon week-end, on vous retrouve lundi.
À lundi.
Il est 7h42 sur RTL. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, compte tenu de la crise sanitaire, est contraint de revoir sa réforme du bac. Les épreuves du mois de mars n'auront pas lieu.
Rendez-vous dans un instant avec le ministre de l'Éducation.
Demandez conseil à votre médecin.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Alba Ventura.
Merci d'être sur RTL ce matin. Monsieur le ministre, vous avez pris en compte ce que disent tous les épidémiologistes, à savoir une progression de l'épidémie, sans compter les questions qui restent en suspens sur un éventuel reconfinement. Vous avez pris en compte aussi la difficulté à se préparer aux examens. Et c'est pour toutes ces raisons que vous avez finalement décidé d'annuler les épreuves de spécialité du bac du mois de mars ?
Oui, et surtout de les remplacer par un autre mode d'évaluation, en l'occurrence le contrôle continu du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre, de façon à ce qu'on travaille jusqu'au bout.
Mais ça change tout quand même. Hein.
Ah, ça change
là,
les choses.
Des épreuves sur trois jours, 15, 16 et 17 mars.
Tout à fait.
Donc ça, c'est annulé.
Oui, même si un établissement pourra évidemment organiser ce jour-là, s'il en a envie, des épreuves qui compteront pour le contrôle continu.
Ah.
Donc ceux qui se préparent peuvent tout à fait continuer à le faire avec cette échéance-là. Mais ce qui comptera pour la note, c'est la moyenne de l'année, de façon à ne pas créer une contrainte uniforme sur l'ensemble du pays, puisque nous savons qu'aujourd'hui, les lycéens ne sont pas tout à fait dans la même situation, selon l'hybridation ou pas, en particulier de leur lycée.
C'est-à-dire qu'en fonction de... quand vous dites hybridation, c'est soit je suis en présentiel, comme on dit, soit en distanciel.
En présence ou à distance.
Voilà.
Et donc,
on en invente des mots.
Voilà.
Hein.
Et donc, dans ce cas-là, pour créer les meilleures conditions, disons les conditions les plus sereines possibles pour nos élèves, j'ai pris cette décision. Évidemment, comme d'autres décisions, on ne les prend pas de gaieté de cœur, puisque c'est pour faire face à des contraintes. Mais il me semblait que c'était plus juste. Après avoir beaucoup consulté l'ensemble des organisations, avoir écouté beaucoup de personnes sur le terrain, c'est la décision que j'ai prise, de façon à ce que, encore une fois, les buts que nous nous fixons soient atteints, c'est-à-dire la sérénité des élèves et leur réussite, puisque mon but fondamental, c'est de les faire réussir pour la suite, autrement dit qu'ils acquièrent le plus de connaissances, et ils le feront tout simplement en préparant les différents contrôles qui existent dans l'établissement jusqu'au mois de juin.
Mais c'était pas plus
simplement
simple de...
pour les enseignements de spécialité, parce que je maintiens bien sûr les épreuves finales de philosophie et le grand oral du mois de juin.
C'est ça, et c'était pas plus simple de tout reporter au mois de juin, comme ça on...
Non, parce que l'un des objectifs...
plus de visibilité, et c'est ce que vous demandez le SNES-FSU ?
Oui, d'autres organisations demandaient d'autres choses, donc nous avons pris une solution qui permet quand même d'atteindre plusieurs objectifs, et notamment, l'objectif, c'est encore une fois de travailler jusqu'au bout. Je ne veux pas que les élèves perdent des jours, et une des vertus de la réforme du baccalauréat est justement de reconquérir le mois de juin, d'éviter qu'il soit perlé. Vous savez, très souvent en France, les élèves, même de seconde et de première, travaillent très peu au mois de juin du fait du baccalauréat. Donc on n'aura pas ce phénomène, on aura du travail jusqu'au bout. Or, on en a besoin parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis un an, il est bon qu'il y ait des journées de travail gagnées.
Pour les élèves et pour les parents qui nous écoutent, ces notes, les notes de ces épreuves de spécialité, hein, deux notes, devaient figurer dans Parcoursup. Donc, que vont inscrire les élèves dans Parcoursup ?
Alors, ils inscriront ce qui se passait déjà l'année dernière, c'est-à-dire les moyennes qu'ils ont au moment où on s'inscrit dans Parcoursup. Donc, justement, à la fin du mois de mars, la situation de notes des élèves dans leurs deux enseignements de spécialité se rapporter dans Parcoursup.
Il est important, vous dites à chaque fois, de ne pas léser les élèves. Le sujet de philo du mois de juin, vous en proposez plus ?
Oui, on en rajoute un troisième, de façon à ce que les élèves aient plus de choix, tout simplement. C'est toujours cette conciliation entre l'adaptation plus souple et la bienveillance que nous voulons pour les élèves, parce qu'ils vivent une année particulière. Moi, c'est une génération comme celle de l'année dernière que je regarde avec beaucoup d'attention, parce que nous leur devons un avenir réussi, nous leur devons de l'optimisme aussi, de la projection positive dans le futur, et nous prenons des décisions qui sont faites pour ça. Évidemment, dans un contexte très contraint où il s'agit de faire face à des situations particulières, mais je pense que c'est la solution la plus juste que l'on pouvait avoir.
Jean-Michel Blanquer, pour l'oral de français en première, on se souvient que l'année dernière, il avait été annulé. Il y a des choses qui changent cette année ?
Oui,
les élèves de première.
Fondamentalement, l'oral d'abord aura lieu de manière normale, c'est la première chose à dire. Et puis ensuite, nous demandons aux élèves d'avoir préparé 14 textes, donc c'est un peu moins que ce qui était prévu. Et ça doit leur permettre, là aussi, d'arriver avec toute la sérénité nécessaire. Bien sûr, on a le droit d'en présenter plus que 14, mais 14, c'est le plancher.
Et ils seront en présentiel.
On est dans la voie technologique. Et ils seront, ça se passe en présence, oui, sauf si on était évidemment au moment de ces épreuves à la fin de l'année scolaire dans une situation épidémique rude, mais a priori, ce n'est pas ce que nous avons en tête.
Vous allez quand même proposer des stages de réussite pendant les vacances pour les élèves qui ont besoin de rattraper ?
Oui, c'est très important que nous aidions les élèves pendant les vacances. Nous l'avons fait pendant les vacances précédentes, hein, dans le cadre de ce qu'on appelait les vacances apprenantes et aussi d'autres dispositifs. Par exemple, aux vacances de printemps de l'année dernière, vous vous souvenez peut-être qu'on avait préparé les élèves pour un peu compenser les jours qu'ils avaient perdus pendant le confinement. Eh bien, on va le faire là au mois de février pour les élèves de terminale, de façon là aussi à les faire réussir dans leur contrôle continu.
Jean-Michel Blanquer, on parle de plus en plus d'un possible reconfinement. Alors la question n'est pas serons-nous reconfinés, mais quand le serons-nous ? Est-ce que vous envisagez d'allonger les vacances de février ?
Non, et d'abord, je ne suis pas d'accord évidemment avec les termes de votre question, parce que non, ce n'est pas certain qu'il y ait un reconfinement. Il y en aura peut-être un, s'il le fallait.
La question est quand même posée.
Elle est posée, bien sûr. Mais vous avez dit, on ne se demande pas quand, mais quand.
On écoutait Olivier Véran, c'est ce qu'on...
Nous verrons bien. En tout cas, nous savons qu'il faut faire face à une situation compliquée. Je tiens à dire que, c'est une nouvelle que j'ai depuis hier soir... Le calcul de notre taux de positivité en milieu scolaire n'a pas changé. Il est de 0,3% sur des milliers de tests que nous faisons, vous savez, aujourd'hui en milieu scolaire, notamment dans les lycées et les collèges, sur les adultes et les élèves. Donc pour l'instant, nous restons sur une sorte de plateau.
On ne se contamine pas trop en classe, c'est ce que vous voulez dire.
Alors oui, bien sûr, il peut y avoir de la contamination, mais elle reste limitée par rapport à la situation générale. Bien sûr, nous regardons ça au jour le jour.
Il y a des écoles fermées, des établissements fermés ?
Bien sûr, nous continuons à fermer... au jour le jour, des écoles, des collèges et des lycées en fonction de la situation. Là aussi, ça reste sur un plateau avec une trentaine d'écoles et d'établissements.
Il y a des clusters ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle le cluster, mais disons qu'on évite que ça devienne des clusters, justement. Il y a eu une ou deux fois où ça, justement, était trop long, ça a été trop attendu, mais sinon, c'est autour de trois cas qu'il y a fermeture la plupart du temps.
Et donc, est-ce que vous avez envisagé un scénario de confinement pendant les vacances de février ? Est-ce que vous avez déjà ça en tête ?
On a toujours tous les scénarios en tête, mais les vacances de février ont vocation à être à la date prévue, de durer 2 semaines pour chacune des zones et de ne pas être changée. Bien sûr, ce que je viens de vous dire peut encore évoluer en fonction de la situation, mais mon objectif sur ce point comme sur d'autres, c'est de tenir au maximum les calendriers, de façon à ne pas troubler les familles, de façon à ne pas troubler le pays, de façon à ne pas troubler les élèves, tout simplement. Et donc, on est toujours sur le principe de 2 semaines de vacances aux dates prévues.
Jean-Michel Blanquer, on le voit, vous avez du pain sur la planche et c'est pour ça que vous avez sans doute dit à Emmanuel Macron à propos des élections régionales de juin pour lesquelles vous êtes pressenti en Ile-de-France. Monsieur le Président, il y a des choses que je ne sens pas.
Alors ça, vous savez, la presse écrit des choses, c'est pas du tout une phrase que j'ai dite d'ailleurs, mais peut-être qu'on peut interpréter les choses ainsi, mais on lit dans la presse...
Vous le sentez, vous le sentez pas ?
Non, ce qui est certain, ce que vous observez vous-même, c'est que j'ai quand même beaucoup de travail, que ce soit pour la gestion de la crise ou même pour mener les différentes réformes. En ce moment-même, vous avez le Grenelle de l'éducation pour la transformation de la gestion des ressources humaines du ministère, pour mieux payer les professeurs et les personnels. C'est énormément de travail. Donc
c'est pas compatible avec une campagne des régionales.
Disons que je dirais ce que je ferai dans quelques jours, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le collectif dans cette affaire. Autrement dit, que la majorité présidentielle soit présente dans les élections, c'est pas forcément avec moi impliqué, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, il faut être raisonnable, mais je continue la réflexion avec... tous mes camarades, de façon à regarder ce que l'on va faire.
Notamment le député Laurent Saint-Martin, c'est ça ?
Oui, lui qui est très investi dans la préparation du programme et qui est en plus une personne de très haute qualité. Donc nous regardons ça ensemble. Ce qui est certain, c'est que depuis des semaines, je ne suis que sur les sujets éducation nationale et que c'est difficile de faire autre chose.
Que ce ne sera pas vous. C'est difficile d'être ministre dans une nation de 66 millions de procureurs. Je reprends les propos du président hier qui disait regretter la traque incessante de l'erreur.
C'est aussi une nation de 66 millions d'entraîneurs de football, de 66 millions de ministres de l'éducation, et ça fait parfois notre charme. C'est notre pays, nous l'aimons, et le président le montre en permanence. Et donc il faut au contraire voir ça comme cette expression dans le contexte dans lequel elle a été utilisée comme une forme d'amour de notre pays et d'envie aussi qu'on progresse par plus de cohésion et d'unité.
Mais vous avez l'impression que tous les Français font le procès d'Emmanuel Macron ?
Non, c'est d'ailleurs pas ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que quand on traverse une crise comme celle-ci, on doit tous faire preuve de cohésion, à la fois d'esprit, je dirais, critique démocratique, c'est ce qui se passe, ça nous n'en manquons pas, et en même temps une capacité de cohésion, d'unité nationale, c'est vrai d'ailleurs aussi dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous avons à faire de collectif, et donc c'est cet appel-là, et vous savez, la France peut être assez fier de beaucoup de choses qui se sont passées depuis un an, et c'est une fierté de collective vis-à-vis de tous les Français. Je pense au système scolaire. Le système scolaire français fonctionne aujourd'hui beaucoup mieux que la plupart des systèmes comparables, tout simplement parce que nos professeurs, nos personnels, les familles, les élèves eux-mêmes jouent le jeu, ont des bons réflexes, et tout ceci, bah, c'est des éléments de fierté collective. Donc plutôt que de toujours critiquer notre pays ou nous critiquer nous-mêmes, eh bien, on peut parfois avoir des éléments de fierté collective, comme quand on gagne en sport, par exemple.
Eh bien, tiens, on en parle. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et je sais que vous êtes un très grand fan de football. Le monde du foot est en ébullition en raison de l'attribution des droits télé, dont un appel d'offres a été lancé après le fiasco de Mediapro. Est-ce qu'il y a un risque d'écran noir ?
En tout cas, nous faisons tout pour que ce ne soit pas le cas, même si c'est quand même un sujet privé, d'acteurs privés qui ont pris trop de risques au début de cette affaire. Et maintenant, les choses doivent être rattrapées. Donc la puissance publique joue tout son rôle, c'est-à-dire d'être en arrière-plan pour que les choses se passent au mieux. Mais en même temps, il faut laisser les acteurs privés faire ce qu'ils ont à faire et veiller à ce qu'on ne se retrouve pas avec un écran noir. Surtout,
ah oui, il y a un risque quand même.
Mon but, bien sûr, il y a toujours des risques pour tous les sujets, mais avec Roxana Maracinanu, nous veillons notamment au fait que les clubs ne soient pas lésés dans cette affaire, et que notamment les petits clubs et les moyens clubs ne se trouvent pas en faillite ou dans des situations impossibles du fait de la situation économique dans laquelle ils auraient été mis.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous, merci et bonne journée.
Des matchs de foot que nous pourrons continuer à suivre. Néanmoins, sur RTL, le calcul du taux de positivité n'a pas changé, il reste à 0,3 au sein de nos classes, vient de nous dire notamment le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'intégralité de l'entreprise.
Oui. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
7h56, bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec le Parti Socialiste ce matin, route pour 2022.
Ben oui, carrière au saut du lit, surprise sur LCI.
Bonjour Olivier Faure, vous dirigez le Parti Socialiste.
Le Parti quoi ?
Le Parti Socialiste.
Le Parti Socialiste, alors attendez, Parti Socialiste.
Et ça continue encore et encore.
La raclée que prend le Parti Socialiste.
Déroute aux élections législatives, le Parti Socialiste, les caisses sont vides.
Défaite cuisante de la gauche, lourde défaite électorale.
Ça continue encore.
Mais oui, ça y est, ça me revient, le PS. Et ben voilà, le Parti Socialiste existe encore, et on nous avait rien dit, dites donc. Et là, le PS is back, le PS est donc de retour. Et vis-à-vis du gouvernement, en ces temps difficiles de pandémie, le patron des socialistes, Olivier Faure, l'a bien précisé dans l'interview.
Mais moi, je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Je souhaite, depuis le début, non pas être dans une forme d'opposition systématique. Ça ne m'intéresse pas.
Mais oui, pas de chasse aux sorcières, c'est pas intéressant. Il n'y a pas à jouer opposition systématique au gouvernement, c'est pas son style. Bon, deux minutes plus tard.
Bah, c'est de la préparation, de l'improvisation, comme à chaque fois. Comme sur les masques, comme sur les tests, comme sur l'isolement, comme sur le traçage. C'est ça qui est dramatique.
Hein. Mais sinon...
Je souhaite depuis le début, non pas être dans une forme d'opposition systématique, ça ne m'intéresse pas.
Évidemment, évidemment. Non. Et puis de toute façon, il a d'autres projets, Olivier Faure, pour son parti. C'est 2022, la présidentielle est là. Au PS, ils ont eu une idée de génie. Attention, accrochez-vous.
À partir du 4 février prochain, nous allons... tous les mois, délivrer, mois après mois, des bouts du projet des socialistes pour l'élection présidentielle.
Voilà, chaque mois, un bout de projet. Et puis le mois d'après, bah, un autre bout. Et ainsi de suite, un peu comme une série à suspense, en fait, pour nous faire saliver. Projet 2022, une série proposée par le Parti Socialiste. Ça, c'est sûr que ça va cartonner. Bon, en attendant, visiblement, c'est pas Olivier Faure qui va se présenter, non. Hier, il nous a quand même fait une sortie de la semaine. Hein. On sent le gars... Il n'y a pas la grosse confiance quand même. Hein.
Si j'étais le meilleur, si les Français se levaient chaque matin en se disant « on veut absolument Olivier Faure », si je suis le ou la meilleure, je ne me déroberai pas. Mais je ne suis pas. Aujourd'hui, je suis suffisamment lucide.
Ah, une lucidité rare en politique. On entend encore les foules. Olivier. Bon, après, le problème, c'est que sa favorite, c'est Anne Hidalgo. Sauf qu'Anne Hidalgo, bah, elle disait récemment sur une potentielle candidature...
Non, surtout pas.
Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez. Je suis quelqu'un de très clair.
Non, surtout pas. Vous pouvez archiver. Mais alors, apparemment, c'était quand même beaucoup moins clair quand on en a parlé directement à Olivier Faure.
Oui, je lui ai posé la question, elle m'a dit, la décision n'est pas prise. Donc, je ne suis pas un spécialiste des envies d'Anne Hidalgo. Elle m'a pas dit, j'ai envie, j'ai pas envie.
En tout cas, il y en a un des deux qui bluffe, et ça nous promet de bons rebondissements pour le projet 2022, on a hâte.
Je ne suis pas un spécialiste des envies d'Anne Hidalgo, ça, c'est une phrase aussi quasi historique. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir ?
À ce soir, oui, on défait le monde, 19h15-20h.
À tout à l'heure. Notre météo, Louis Baudin.
Oui, avec encore beaucoup d'agitation ce matin, on a des nuages de la pluie dans les régions du nord-est de l'Île-de-France jusqu'à l'Alsace, Lorraine, en passant par la Bourgogne, beaucoup de pluie encore, et puis une autre perturbation, une tempête est en train de balayer la moitié sud, elle est déjà dans le sud-ouest avec des nuages de la pluie, de l'orage sur les Pyrénées, et du vent qui est en train de se renforcer, on devrait dépasser les 100 km/h du côté du Pays Basque, puis tout ça va petit à petit se propager vers le sud-est, on aura là aussi beaucoup de nuages, de la pluie, beaucoup de neige en montagne à partir de 1200 mètres, du vent en Méditerranée, on dépassera les 100 km/h autour du golfe du Lion, 150 km/h aux extrémités de la Corse, et puis quand même cet après-midi au nord de la Loire, en Ile-de-France, près de la Manche, on devrait retrouver quelques éclaircies, un peu de répit, le tout avec des températures qui repartent à la baisse, même s'il n'y a pas de gelée ce matin en plaine, 6 à 9 degrés dans la moitié nord, on repasse sous les 10 degrés, 9 à 10 dans les régions du sud-ouest et 11 à 14 degrés près de la Méditerranée.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, une flambée de cas de Covid qui intrigue dans deux hôpitaux français.
À Compiègne et à Dieppe, précision dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, Duralex, le champion du verre français qui veut éviter la casse sociale. Et puis la mort de Rémi Julien, le plus grand des cascadeurs français. Il fut derrière Fantomas et James Bond. Il avait 90 ans.
RTL Matin.
Impossible de dire pour l'instant si le variant anglais y est pour quelque chose. On observe ces derniers jours une flambée de cas dans des hôpitaux français. À Compiègne, 250 patients et soignants positifs au virus. Et on l'a appris hier soir, même chose à Dieppe, plus de 260 cas. Bonjour Yann Boucherie.
Bonjour.
La situation sur place est jugée préoccupante par la direction à Dieppe, déjà parce qu'une grande partie du personnel est en arrêt.
Et pour cause, 14 services de soins ont été touchés par des clusters en médecine, en gériatrie ou en réadaptation. 141 agents et 123 patients infectés. Aucune explication à cette flambée. L'ARS a déclenché la réserve sanitaire au niveau national pour déployer des renforts. Deux infirmières libérales en provenance de Basse-Normandie sont déjà arrivées, mais ce n'est pas suffisant selon le maire de la ville, Nicolas Langlois.
Il faudrait plusieurs dizaines de personnels supplémentaires, notamment chez les infirmiers, chez les aides-soignants, chez les brancardiers, même chez les médecins. C'est aussi un message d'urgence au gouvernement. Je crois qu'il y a plein d'hôpitaux qui sont dans notre cas sur le territoire français. Je pense à Compiègne, par exemple. Je pense aussi à la situation des Alpes-Maritimes et à d'autres territoires. Il faut que le gouvernement, avant de penser la France de 2030, s'occupe de la France de 2021.
Situation tendue mais sous contrôle, indique Nicolas Langlois. L'hôpital de Dieppe fonctionne, même s'il a déjà déprogrammé près de 40% des interventions de chirurgie non urgente. Les tests ont été renforcés dans tous les services et notamment aux urgences. Sur les 7 établissements du groupe hospitalier, ce sont au total 176 agents et 143 malades qui sont atteints du virus. Pour l'instant, aucun cas de variant anglais détecté selon Monsieur le maire.
Merci beaucoup Yann Boucherie. Plus de 22 800 nouveaux cas positifs enregistrés hier en France. La circulation du virus se mesure évidemment dans les tests, mais aussi, vous le savez, dans les eaux usées. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, comme ici dans les Yvelines à Saint-Cyr-l'École. Reportage de Sophie Jousselin dans l'une des plus grandes stations d'épuration d'Île-de-France.
Une eau grise et sale s'écoule, de vieilles bouteilles en plastique flottent à la surface et s'engouffrent sous la station d'épuration.
Donc là on voit les eaux usées avec un certain nombre de déchets. C'est une des cinquantaines qui est suivie dans le cadre de la recherche du Covid.
Jean-Pascal Chuzel est le responsable du site et qui reçoit les eaux usées de 340 000 habitants. Avec Aïda Maclouf, ingénieur chimiste, il récolte les échantillons.
C'est cette boîte grise. Donc le tuyau va plonger dans l'effluent et qui, pendant une durée de 24 heures, va aspirer un échantillon toutes les 10 minutes.
Après, nous, on reprend cette eau-là et après, on l'envoie au labo agréé pour faire l'analyse du Covid.
En cas de pic épidémique, il serait possible de cibler les lieux de contamination, les clusters. Anne-Lise Avril dirige le service recherche et développement chez Suez.
On a des préleveurs portatifs que l'on peut poser en différents points du réseau, qu'on peut même aller à l'échelle d'un EHPAD ou un groupe scolaire.
Une perspective intéressante pour Sonia Brault, la maire de Saint-Cyr-l'École.
Si demain on me disait, ben voilà, il y a une vraie concentration et ça se trouve dans cet ensemble immobilier-là, à cet endroit-là, on ne met plus les enfants à l'école pour ne pas contaminer les autres du quartier d'à côté. On déploierait des solutions d'école à la maison qui sont plus faciles à mettre en place pour 900 logements que pour 20 000. En fait, on ferait de la dentelle.
Dans moins d'un mois, il sera également possible de repérer le variant anglais dans les eaux usées.
Sophie Jousselin.
Avec la menace des variants, Santé publique France appelle à accélérer encore la campagne de vaccination.
Et Olivier Véran se montre optimiste. D'ici fin août, dit-il, la totalité des Français, auront reçu les deux injections à une condition, et pas des moindres, que la production évidemment suive. En tout cas, les mentalités évoluent. Aujourd'hui, 55% de la population veut se faire vacciner. C'est 11 points de plus que le mois dernier, d'après notre baromètre BVA pour RTL. Pour l'heure, bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Pour l'heure, la France renforce ses contrôles aux frontières. Dès dimanche, les voyageurs en provenance d'autres pays de l'Union européenne devront présenter un test PCR négatif. Tous ?
Oui. Tous, oui. La France rejoint avec cette mesure d'autres pays européens qui étaient déjà plus vigilants à leurs frontières, comme l'Italie par exemple. Donc il faudra bien un test PCR négatif réalisé 3 jours avant votre voyage pour arriver en France, sauf si vous prouvez que vous effectuez un voyage essentiel.
Alors c'est quoi un voyage essentiel ?
Un voyage essentiel, ça concerne principalement les transfrontaliers. Par exemple, le personnel soignant qui traverse tous les jours la frontière franco-allemande pour aller travailler dans une clinique de l'autre côté du Rhin. Mais aussi les chauffeurs routiers, car on garde l'objectif de conserver la libre circulation des marchandises. Les diplomates également. Si vous avez un doute, il vous faut consulter la recommandation européenne du 30 juin 2020.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de contrôles ?
Ah oui, c'est confirmé. Davantage de contrôles, la vérification est renforcée. Vous savez, cette mesure, elle est de toute façon déjà entrée en vigueur depuis lundi dernier pour tous les voyageurs qui arrivent depuis un pays hors zone européenne. Si vous arrivez d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie ou du Royaume-Uni, donc le dispositif est déjà prévu.
Et ceux qui n'ont pas de test ?
Alors, ceux qui n'auront pas effectué de test, de toute façon, ne pourront pas quitter leur pays de départ, puisque ça sera vérifié à l'aéroport avant d'embarquer ou à la gare. Et il peut y avoir des contrôles sur les routes. Si vous n'avez pas de test, les autorités peuvent vous placer en isolement 7 jours dans un établissement désigné par l'État.
Merci pour toutes ces précisions très claires. Merci Bénédicte Tassard. Le baccalauréat ne va pas se dérouler comme prévu, et ce pour la deuxième année consécutive. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, l'a confirmé tout à l'heure sur RTL. Les deux épreuves de spécialité qui étaient programmées en mars sont annulées au profit du contrôle continu. Le taux de positivité, par ailleurs, reste stable dans les écoles. 0,3%, nous disait Jean-Michel Blanquer. Les contaminations restent limitées. Question pour l'instant donc de rallonger la durée des vacances de février.
Quel avenir pour Duralex, l'un des fleurons de l'industrie française ? Ça se joue aujourd'hui et on vous en parle dans un instant.
RTL Matin.
Il est 8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Vous entendez la musique d'un James Bond, Skyfall, où l'on voyait le célèbre agent secret boire son whisky dans des verres Duralex.
Ouais, une consécration pour l'usine de La Chapelle-Saint-Mémin dans le Loiret. Mais depuis, l'entreprise connue pour ses verres incassables enchaîne les difficultés. En redressement judiciaire aujourd'hui, elle joue tout à l'heure son avenir devant le tribunal de commerce d'Orléans. Retour sur une saga menacée, Christophe Bourrouf.
Créé en 45 par Saint-Gobain, Duralex va vite sortir de son usine près d'Orléans des objets devenus iconiques, comme le Picardie, star des cantines. Souvenir d'écolier lorsqu'on collait notre nez au fond de ce verre pour y découvrir notre âge, un succès phénoménal, jusqu'à 30 millions de verres produits chaque année et quasi incassables.
Duralex ne s'ébrèche pas.
Son secret, le verre trempé fabriqué dans les mêmes matériaux que les pare-brises de voiture, 2,5 fois plus résistants, verres vaisselle qui vont se vendre dans des dizaines de pays, 80% de la production part à l'étranger.
Ja, glaset höll. Det är nämligen Duralex. Duralex.
Mais la marque est aujourd'hui dans le rouge après un accident industriel en 2017, puis la crise sanitaire qui a fait chuter les ventes. Aujourd'hui, les 248 salariés espèrent un repreneur, car Duralex, disent-ils, est comme sa vaisselle, incassable.
Duralex résiste.
Christophe Bourrou, c'est un phénomène qui a explosé depuis l'an dernier, depuis le premier confinement. En réalité, les dégradations d'antennes relais qui ont privé des millions de Français de téléphone, de télévision, de radio aussi, comme à Marseille en décembre, où on ne pouvait pas capter RTL. 121 antennes dégradées au total, d'après les chiffres dévoilés ce matin par RTL, et de nombreuses interpellations, notamment dans les réseaux de l'ultra-gauche et des anti-5G.
Le football, question autour de Kylian Mbappé.
Mais qu'arrive-t-il au petit génie du Paris Saint-Germain ? Il ne marque plus depuis 4 4 matchs, passage à vide, coup de blues. Dans notre dernier baromètre sport Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, il garde la côte, Mbappé garde la côte auprès des Français, mais son attitude intrigue Philippe Sanfourche.
Oui, on peut parler d'une légère érosion plus que d'une baisse significative. Les Français sont toujours 77% à le trouver sympathique, c'est 3 points de moins qu'en novembre 2019, effritement relatif donc, même si l'humilité perçue du champion du monde se dégrade, geste d'agacement, mou boudeuse, les sondés ne sont plus que 57% à le trouver humble, une attitude regrettable mais qui n'expliquerait pas pour autant sa baisse de régime. Pour un amateur de foot sur deux, ce sont surtout des difficultés physiques liées à sa blessure à la cheville et aux conséquences du Covid. Il reste d'ailleurs une immense majorité, 79%, à lui prédire un avenir de ballon d'or, mais la stratégie pour y parvenir fait désormais débat. Partir, rester dès cet été, c'est du 50-50, avec en cas de départ une préférence pour le Real Madrid. Les fans considèrent que ce serait une bonne chose pour sa progression personnelle à 82%, mais un coup dur pour le PSG et par extension la Ligue 1, impactée pour 6 sondés sur 10 par un départ à l'étranger de leur joueur préféré en équipe de France.
Le PSG qui reçoit Montpellier ce soir à 21h dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Et puis on l'a appris ce matin, on disait en titre tout à l'heure, le casse-cou du cinéma français Rémi Julien a succombé au coronavirus. Il était hospitalisé depuis 2 semaines, il avait 90 ans. Le cascadeur était apparu notamment dans 6 James Bond. 1400 scènes au total au cinéma à son actif. Fantomas, La Grande Vadrouille, La Nuit américaine, c'était lui. Bonjour Patrick Tégéreau.
Bonjour.
Vous aviez pu le rencontrer il y a quelques années pour RTL.
Oui, un homme charmant, simple, généreux en anecdotes et il avait de quoi raconter. Il a collaboré à plus de 400 films en plus de 40 ans de carrière. Il a inventé un art, celui de la cascade préparée scientifiquement. L'angle des rampes pour faire bondir une voiture, la densité du matelas de carton pour amortir sa chute, tout était calculé et surtout imperceptible pour le spectateur. Pas de trucage numérique à l'époque. Le scénario intégrait ces cascades devenues incontournables. Alors le mot de casse-cou que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, pour lui c'était péjoratif. Pourtant, le goût du risque, il l'avait depuis tout petit.
Mes cousins m'emmenaient en moto chez ma nourrice. J'avais 3 ans. Et je me souviens de ça. Parce que je hurlais comme un cochon qu'on égorge parce que j'avais peur, avec le bruit des motos qui se penchent comme ça. Et quand 3 kilomètres après, ils me débarquaient chez ma nourrice, je gueulais encore plus fort parce que je voulais recommencer.
Alors il a fait courir Belmondo sur le toit du métro, il a suspendu un hélicoptère. James Bond s'est toujours sorti de terrifiantes poursuites en voiture grâce à lui, ce qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Avec Rémi Julien, c'est bien simple, tout était possible. Il a fait danser d'immenses camions américains, mais aussi la modeste deux chevaux de la bonne sœur dans Le Gendarme de Saint-Tropez.
Heureusement que je connais les raccourcis.
Voilà, Rémi Julien était tout simplement l'une des plus grandes personnalités françaises du cinéma international.
Merci de nous avoir fait revivre son parcours. Merci beaucoup Patrick Tégéreau. Incroyable parcours que celui de Rémi Julien.
L'histoire du jour.
C'est le grand débat du moment aux États-Unis. Joe Biden va-t-il devoir renoncer à son vélo d'appartement hyper connecté?
Et pourquoi?
Des experts s'interrogent sur la sécurité de l'engin qui pourrait représenter une menace pour le président. Il pédale tous les matins, mais devenu président des États-Unis, il va devoir peut-être opter pour un équipement beaucoup plus simple, sans caméra, sans micro, sans réseau. Bon, et pourquoi pas une bonne vieille bicyclette?
Bon, écoutez, je vois pas pourquoi il montrerait pas. Il ferait pas son petit sport chez lui tranquillement, non?
Non, mais il est géolocalisé en permanence. Avec
j'entends
ça.
Bien, mais je consulte le docteur Simès.
Ah, mais c'est une très bonne idée. Il faut qu'il continue.
Voilà,
je sais pas sur quel vélo, mais il faut qu'il continue.
45 minutes par semaine, au minimum.
Au minimum. Bah, il y a accès à faire quand on est président.
C'était le journal de Jérôme Flora.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
On s'intéresse aux fake news, comme chaque jour avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'explosion des cas de Covid en Israël démontre-t-il l'inefficacité de la vaccination?
Et oui, alors Israël semble bloqué dans une dimension des contraires. D'un côté, on célèbre une vaccination de masse, et de l'autre, on s'inquiète d'une flambée des cas. 2,3 millions d'Israéliens ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, et plus de 500 000 d'entre eux une seconde. 8 000 nouveaux cas, par contre, quotidiens sont actuellement recensés chaque jour en Israël, soit 2 fois plus qu'il y a 3 semaines. Lundi dernier, pour la première fois, le taux de positivité a dépassé les 10%. Alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire, c'est confus, perturbant. Donc si je vous dis que c'est un terreau fertile à intox, ça ne vous étonnera pas?
Non, ça ne m'étonne pas.
Eh bien c'est le cas, Yves. C'est incroyable. En Israël, ça vaccine et ça confine. Vous voyez le truc?
Oui.
Écrit un adepte de Twitter et semble répondre à cette personne qui également écrit sur le réseau social. C'est bizarre qu'il y ait de plus en plus de cas alors qu'ils sont tous vaccinés. Alors c'est vrai que ça interroge, mais le vaccin n'a pas une incidence immédiate. Vous savez, on parle de science et pas de magie. Une piqûre ne fait pas disparaître l'épidémie d'un seul coup. Et les premières études indiquent au contraire une tendance encourageante.
La situation à laquelle est confrontée Israël n'étonne pas les experts.
Bah oui, parce que d'un côté, les trois quarts de la population n'ont encore reçu aucune dose de vaccination et ne peuvent donc espérer pour l'instant aucune protection. D'autre part, environ 30 à 40% des personnes infectées l'auraient été par le variant britannique plus contagieux, d'après les projections officielles, explique le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Une première dose administrée, puis une deuxième du vaccin Pfizer. On connaît la formule. Et si on suit ce rythme, on connaîtra véritablement l'impact de la vaccination en Israël au mois de mars. Oui. Donc, quand certaines publications lient la hausse des contaminations à la campagne de vaccination, c'est totalement faux. Ça n'a pas de lien et il est encore trop tôt. De plus, une étude israélienne publiée cette semaine par le centre médical Sheba à Tel HaShomer montre que le vaccin était efficace après deux doses. Hein. Voilà, vous savez, le fameux débat, une dose, deux doses. 102 employés ont passé un test sérologique une semaine après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer. Résultat, 100 d'entre eux avaient des niveaux d'anticorps 6 à 20 fois plus élevés qu'une semaine plus tôt. Donc non, la diffusion du virus n'est pas multipliée par la vaccination. Au contraire, c'est elle qui le freinera.
Et sans surprise, on retrouve le même genre d'intox à propos de l'Espagne.
Voilà, avec le Portugal, l'Espagne inquiète actuellement puisque la péninsule ibérique pourrait être la nouvelle zone rouge de l'Europe. Jeudi en Espagne, plus de 41 000 cas en 24 heures ont été recensés. Et en même temps, Madrid lance les deuxièmes injections de Pfizer. Objectif, plus de 2 millions de personnes vaccinées fin janvier. Là encore, on trouve des intox liant vaccin à l'augmentation du Covid. Et la soi-disant preuve de l'inefficacité du sérum, il faut juste du temps, une brèche temporelle adorée par les fabricants de fausses informations. Le plus simple, c'est donc le geste barrière numérique. Ne partagez pas.
Jean-Mathieu Pernin, RTL, il est 8h16.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le coronavirus circule donc toujours à un très haut niveau en France. Plus de 25 000 nouvelles contaminations encore, un nombre qui augmente alors que tout est quasiment fermé. Ça paraît paradoxal. Sophie Orange, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Où attrape-t-on la Covid aujourd'hui?
Je veux dire, une banalité, c'est quand on enlève le masque. Mmh. Ça paraît simple, sauf que visiblement, de nombreuses personnes continuent à le faire. Quelques exemples. Au travail, une pause cigarette au pied de son bureau avec des collègues, à la cantine si on est trop proche, un apéro avec des amis, un déjeuner sans respecter les distances. Quelques minutes suffisent pour transmettre le virus. Autre situation que l'on ne soupçonne peut-être pas assez, vous restez 3 heures dans une petite salle de réunion sans fenêtre, sans climatisation, et il y a un risque même avec un masque.
Vous nous rappelez quelle est la bonne distance?
Vous avez raison de poser la question parce que les règles changent ce matin à cause de la menace du variant anglais. Jusque-là, pour être considéré comme cas contact sans masque, la distance était d'un mètre entre deux personnes. Désormais, à 2 mètres, vous serez considéré comme cas contact, estime le Haut Conseil pour la Santé publique.
Une fois qu'on est contaminé, quel est le risque d'être hospitalisé?
Alors, 10 à 15% des cas, selon plusieurs médecins que j'ai interrogés. Ensuite, le risque d'être placé en réanimation est lui aussi d'environ 10%. Donc, si on part sur 25 000 personnes contaminées par jour, 2500 iront à l'hôpital, environ 250 en réanimation. Ce n'est pas une étude scientifique, mais des estimations à partir d'expériences de terrain. Et vous voyez, ce n'est pas anodin d'être contaminé.
Le profil des personnes, des Français décédés a-t-il changé depuis la première vague?
Pas fondamentalement, ce sont toujours très majoritairement des personnes âgées. Selon Santé publique France, sur les décès à l'hôpital de la première vague, 81% avaient plus de 75 ans. Ils sont 87% désormais. Pour les moins de 30 ans, c'est toujours 0,1, 0,2%, c'est vraiment très très faible. Mais attention, un homme obèse et cardiaque de 50 ans a plus de risques de mourir qu'une femme de 75 ans en pleine forme.
L'arrivée du variant anglais ne fait pas craindre un rajeunissement des décès?
Cela n'a pas été observé au Royaume-Uni, il n'y a pas de raison que cela soit différent en France. Cette deuxième vague plus meurtrière dans tous les cas que la première. 33 000 morts contre 30 000 au printemps. Et ce n'est pas fini, d'où ce commentaire d'un chef de service. Heureusement que le taux de mortalité a été divisé par 2 depuis mars et que la vaccination a commencé. Sinon, vu le nombre très important de contaminations depuis l'automne, le bilan pourrait être encore plus meurtrier.
Merci beaucoup pour tous ces chiffres qui illustrent bien la situation en ce moment, Sophie Orange. Dans un instant, Michel Simès va nous parler de la prosopagnosie. Vous avez le temps de la pub pour chercher de quoi il s'agit. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
PM.com.
RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Il est 8h20. Bonjour Michel Simès.
Bonjour Yves.
Nous avons tous vécu ce moment parfois très gênant où on rencontre quelqu'un que l'on connaît, mais impossible de mettre un nom sur cette personne, voire de nous souvenir dans quel cadre nous l'avons connu. Il y a pire, se toucher par la prosopagnosie. Pagnosi.
Oui, ceux-là ont beaucoup de difficultés à identifier ou à reconnaître les personnes rencontrées, parfois y compris les plus familières. Et pas de temps en temps, mais tout le temps. Pour savoir à qui elles parlent, ces personnes essayent de recourir à des subterfuges, la voix, l'allure générale, le contexte, une odeur, mais ça les met dans des situations parfois très gênantes et surtout mal comprises par les personnes rencontrées. Alors si j'ai voulu vous en parler ce matin, c'est parce que je me suis demandé si la période que nous traversions était encore plus problématique pour eux. Je veux bien sûr parler du port du masque. Vous l'avez sûrement vécu, Yves, on a parfois du mal à savoir à qui on parle, quelques secondes de flottement quand quelqu'un vous dit bonjour dans la rue. Alors imaginez pour un prosopagnosique qui n'a plus que la moitié du visage pour essayer de s'en sortir.
Alors vous avez la réponse à la question que vous soulevez ?
Alors disons que j'ai mené une enquête qui n'a rien de scientifique vu le nombre de sujets inclus dans l'étude. Un seul. J'ai passé un petit coup de fil à l'un des plus célèbres prosopagnosiques français, Thierry Lhermitte. Oui. Je lui ai demandé comment il vivait la période actuelle avec toutes les personnes masquées. Mmh. Il m'a expliqué dans un grand éclat de rire, et je crois qu'il en rit encore, que c'était plus facile qu'avant parce que là, il n'essayait même plus de reconnaître les gens. Avant, il s'accrochait à ce qu'il pouvait, là rien ou presque, donc il n'essaye plus. Finalement, ça lui demande moins d'efforts qu'avant et quand une personne lui dit « Tiens, c'est moi un tel », eh ben, il peut facilement répondre « Ah ben, je t'avais pas reconnu avec ton masque ». Donc c'est effectivement pratique.
Bon, alors il y en a d'autres, des célébrités qui souffrent de prosopagnosie et qui le disent.
Ouais, Philippe Vandel, Brad Pitt sont prosopagnosiques. Alors, quelle est l'origine de ce handicap ? En fait, il y a la prosopagnosie acquise à la suite, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme qui a touché une région précise du cerveau. Et puis, il y a la prosopagnosie innée. Alors, c'est probablement un défaut de développement du processus de reconnaissance des visages. Il y en a même qui parlent d'un facteur génétique. Et on imagine bien qu'il n'y a pas vraiment de traitement pour ce genre de handicap.
Maintenant qu'on a décrit ça, je vois d'ici les auditeurs qui se disent « Ouh là là, c'est moi qu'on est en train de décrire. J'ai un mal fou à mettre un nom sur les personnes que je rencontre et que je connais. »
Oui, alors, faut pas s'inquiéter parce qu'on peut aussi ne pas être très physionomiste sans tomber dans la prosopagnosie. Alors de toute façon, il n'y a pas vraiment de test pour le savoir, à part un qui consiste à montrer des visages de personnalité aux patients. On pourrait par exemple montrer la photo de Thierry Lhermitte à Thierry Lhermitte. Oui. Voilà. Mais rassurez-vous, lui se reconnaîtrait. Alors que dans les cas les plus graves, certains prosopagnosiques sont incapables de reconnaître leur propre visage.
C'est très impressionnant. Merci beaucoup Michel Simès. On se retrouve dimanche à 9h15.
Dimanche matin pour les beaux, l'hebdo avec la petite bande.
En avant-première, le tout nouveau film de Yann Arthus-Bertrand qui est intitulé Legacy, notre héritage. Vous pourrez vous aussi le voir mardi prochain à 21h05 sur M6. Et Yann Arthus-Bertrand est notre invité dans un tout petit instant. Restez avec nous.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Il est 8h25, bonjour Yann Arthus-Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, on est ravis de vous accueillir. Dois-je rappeler que vous êtes photographe, réalisateur. En tout cas, j'annonce avec grand plaisir, d'ores et déjà, à nos auditeurs, la grande soirée, Legacy, notre héritage, qui aura lieu mardi soir sur M6, à partir de 21h, dans le cadre de la Green Week. En fait, c'est la semaine verte qui démarre ce week-end et dont nous parlerons avec vous dans les jours prochains. Yann Arthus-Bertrand, ce nouveau film démarre par des images d'archives, vos images tournées il y a 40 ans au Kenya. Combien de temps vous a pris ce tournage et le montage de ce nouveau film ?
Alors, c'est un film qu'on a surtout beaucoup utilisé d'archives. Mmh. C'est un film qu'on a essayé de faire à l'économie. J'avais tourné, ça fait 15 ans que je tourne, j'avais énormément d'archives sur la planète. Et on a estimé qu'au jour d'aujourd'hui, il fallait faire des films sans dépenser de carbone, de réfléchir à faire un film. En fin de compte, c'est l'histoire de mes 50 ans d'écologie. Imaginez que moi j'ai 74 ans aujourd'hui, depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse aux animaux. Et le constat aujourd'hui, j'en suis pas très fier de penser que les animaux que j'étudiais au Kenya il y a 40 ans, l'époque où je pensais sauver les éléphants, sauver les rhinocéros, aujourd'hui l'espèce que j'ai envie de sauver, c'est la mienne. C'est l'espèce humaine.
Alors vous, jeune parisien, trentenaire à l'époque, vous décidez de partir pour vous installer et étudier les lions. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Quelle est votre motivation ?
Je rêvais de devenir scientifique comme Jane Goodall, d'étudier les animaux sur le terrain. Et je dois reconnaître que j'ai passé avec ma femme Anne 3 ans incroyables. J'ai construit ma maison en bois. J'avais les éléphants qui passaient devant ma maison. C'était un peu le paradis. Tout ce que j'avais rêvé de faire, de vivre au milieu d'une réserve. Et c'est des moments très très forts qui ont marqué ma vie. Je pense que c'est la personne que je suis aujourd'hui vient de ces 3 ans que j'ai passé au Kenya, dans cette intimité incroyable, dans cette harmonie inouïe que j'ai vécue au milieu des animaux sauvages.
Donc en fait, vous avez le témoignage de cette époque que vous avez partagée avec votre épouse. Et pour ce nouveau film, vous êtes retourné sur place et vous n'avez pu que constater quoi ? Les changements, pour ne pas dire les bouleversements ?
tous les animaux que j'ai étudiés à cette époque-là sont tous en voie de disparition. C'est dingue. Les lions qui étaient 250 000 sont aujourd'hui 20 000. Les éléphants, on parle de l'extinction définitive des éléphants en en perdant 10 ans tous les ans. Tous les chiffres aujourd'hui, d'être écolo aujourd'hui, de regarder les chiffres, ça, c'est angoissant quand même. Hein. Voilà, donc on est. Le WWF quand même estime qu'on a perdu. Écoutez bien ce chiffre, 70% du vivant en 40 ans. C'est fou. C'est fou. L'homme est en train de supprimer tout ce qui n'est pas humain sur la Terre. Il n'y a plus que lui.
Et pourtant, il y a des hommes et des femmes sur place, les Maasai.
Oui, bien sûr. Il y a des Maasai qui sont. C'est le berceau de l'humanité. C'est là où est né l'homme. Et en même temps, les Maasai qui aujourd'hui chassaient les lions à la lance, aujourd'hui les empoisonnent, puisque les réserves se sont rétrécies. Les lions se sont rétrécis vers les réserves, parce qu'il y a des cultures partout. Les Maasai craignent pour leur bétail, qui sont le bétail chez un Maasai, c'est son compte en banque. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de les empoisonner que de les tuer.
Ouais. L'un des fils rouges de ce film, c'est l'énergie. Mmh. Celle des hommes, de la nature, des éléments. Et vous en arrivez à la conclusion que maintenant que l'homme domine l'énergie au sens global, plus rien ne peut l'arrêter.
D'ailleurs, on est la tyrannie de la croissance. Aujourd'hui, l'énergie nous a permis... Vous vous rendez compte qu'un litre d'essence, c'est comme 100 personnes qui travaillent une journée. Tout le pétrole qu'on consomme tous les jours, c'est comme 200 fois l'humanité qui travaille à la main. Vous vous rendez compte? Et donc, on peut se permettre tout. On peut manger à midi des crevettes qui arrivent de Thaïlande, avec des avocats qui arrivent du Mexique. Ça nous paraît normal. C'est pas grave, on a l'énergie pour le faire.
Un kilo transporté sur un bateau qui traverse la planète, ça coûte 4 euros, nous expliquait François Langlais. C'est une explication à ce que vous êtes en train de... c'est une illustration de ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Ce film, c'est un film qui est fait, c'est formidable. Aujourd'hui, par exemple, on va passer le film avec Blanquer dans une cinquantaine d'écoles. Mais j'ai attention, c'est pas un film fait pour les enfants, c'est un film fait pour nous, les adultes. On va pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Il n'y en a pas de vaccin. Le vaccin, c'est toi, moi. Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Et c'est un film où je parle avec émotion de notre responsabilité. Et je me dis, nous, on a vécu une génération absolument inouïe, quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait de la planète, quoi? Aujourd'hui, on est quand même, c'est 10% de la population du monde qui émet 70% des gaz à effet de serre. On est devenu tellement puissant, tellement fort, et on est dans une espèce de banalité du mal. C'est pas grave, on va trouver la solution. On trouvera pas la solution. Il y a pas très longtemps, le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas le patron de Greenpeace, le secrétaire général, parle de la catastrophe climatique imminente. Alors est-ce qu'on peut pas se réveiller et tous ensemble, c'est important, pas les uns contre les autres, lutter contre ce qui est en train d'arriver.
Je vais vous faire une remarque qui va vous déplaire, mais qui est un hommage à votre sens du cinéma. Vos images, on les connaît depuis toujours, elles sont magnifiques, elles nous ont formidablement émus. Même les catastrophes, parfois, peuvent être élégantes ou belles à voir quand elles sont bien filmées. Qu'est-ce que je vous choque?
Non, parce qu'en fin de compte, on a tous...
Les prises de vue au drone aujourd'hui sont sublimes, enfin...
Oui, l'esthétisme fait partie de mon métier, oui. Tout simplement. Donc, on esthétise, c'est vrai, la mort. C'est pas forcément... Mais c'est un film... D'abord, c'est le film le plus difficile que j'ai eu à faire.
Pourquoi ?
Parce que on parlait d'une catastrophe annoncée, parler de fin du monde, c'est pas très rigolo. On n'a pas envie d'en parler. Moi, j'ai des petits enfants et même d'en parler maintenant, vous voyez, ça me serre le cœur.
Mais quoi, c'est le sens de votre vie et de votre engagement qui sont bousculés.
C'est le sens de ta vie, de la mienne. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Aujourd'hui, je pense que le sens de la vie, c'est important. Et cette époque actuelle nous permet de réfléchir qu'est-ce que je dois faire de ma vie pour rendre le monde meilleur. Et on peut tous faire quelque chose. Et c'est un film qui donne quelques solutions, en sachant évidemment que le problème devant nous est énorme.
Alors pour réfléchir, il faut aussi des espoirs. Et j'ai envie de vous dire, quelles sont les raisons d'espérer?
Il n'y a pas d'autre moyen que vivre avec de l'espoir. Mais non, je finis le film en disant que la seule énergie, bien sûr on parle d'énergie du pétrole, la seule énergie dont j'ai envie de parler, c'est l'énergie de l'amour. L'amour, c'est ce que je veux dire, c'est un peu nul, je veux dire ça peut être un peu ridicule, mais en même temps, avoir la conscience amoureuse de la vie autour de soi. Mmh. Avoir la conscience amoureuse que la vie c'est important, que les animaux sauvages autour de nous c'est important, que les arbres c'est important, que ta famille est important. Et que voilà, et qu'on doit tout mettre nos formes pour lutter, voilà, pour essayer de conserver ce climat extraordinaire, tempéré. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le climat qu'on a connu pendant 20 000 ans, il est parti à jamais. Vous vous rendez compte de ça? Pendant 20 000 ans, on a un climat tempéré qui a permis à la civilisation de se développer. Ce climat, il est parti. Donc, il faudra qu'on apprenne à vivre avec un climat un peu difficile, mais avec empathie envers les autres, partagé, et avec beaucoup d'entraide. C'est ça qui a fait la force de l'humanité.
Juste une chose, la quasi première annonce de Joe Biden était le retour des États-Unis dans l'accord de Paris pour le climat. Ça vous a fait du bien? Ça va nous faire du bien?
Alors, je vais vous dire un truc, les COP ne servent à rien. toutes les COP n'ont jamais fait descendre d'un degré le carbone. On est de prisonniers de cette tyrannie de la croissance et l'égoïsme des nations fait que malheureusement, on n'arrive pas à changer beaucoup de choses.
Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand. Legacy, notre héritage sera diffusé mardi soir à 21h sur M6. C'est dans le cadre de la Semaine Verte. Merci d'être venu nous présenter
le
film.
Il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique. Prenez bien ça dans votre tête.
Et ce film sera projeté aujourd'hui dans un certain nombre de lycées en France puisque vous adressez bien entendu aussi aux jeunes qui seront les héritiers de ce que nous leur laisserons. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
À bientôt sur RTL. Dans un instant.
Vous, c'est notre métier.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
L'été dernier, Jean-Louis Aubert fait un scanner de routine et découvre qu'il a une malformation cardiaque. Il accepte de se faire opérer à cœur ouvert. Cette épreuve lui a inspiré deux chansons inédites qu'on retrouve dans la réédition de son album. Jean-Louis Aubert se confie ce matin, sa renaissance et ses peurs.
Ou sur leg.pasteur.fr.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h35. Oui. Nous sommes de bonne humeur.
Ouais, il n'y a pas de raison.
Et nous allons passer notre météo à 7 jours.
Alors, à 7 jours, donc, on va reparler d'humidité, de vent et de froid. Enfin, d'un froid en tout cas hivernal. Et donc de neige en pleine. Alors, je l'ai dit aujourd'hui, une perturbation traverse la moitié sud. Nuages, pluie, vent, beaucoup de neige en montagne. Encore une dizaine de centimètres supplémentaires dans les Alpes, le Jura, dans les Vosges également. Ou encore du côté des Pyrénées. Et demain, on n'aura plus cette perturbation dans le sud. Mais une nouvelle va revenir par l'ouest avec de l'air un peu plus froid. Donc elle va donner pluie et neige mêlée en Ile-de-France, dans les régions du nord-est. Et puis en fin de journée, ben, ça tournera la neige jusqu'en plaine. Et ça va être comme cela pour tout le week-end dans la moitié est où on va surveiller quelques centimètres supplémentaires jusqu'en plaine. Alors plus on ira vers l'ouest, plus ça sera sous forme de pluie.
Ah bah oui.
Avec même quelques éclaircies, un peu de soleil près de la Méditerranée avec du vent. Les températures vont de nouveau baisser. On ne dépassera plus les 4-5 degrés dans la moitié nord entre samedi et dimanche, surtout dans la journée de dimanche. On sera sous les 10 degrés également dans la moitié sud. Et puis ce temps un peu plus froid, bah, il devait s'atténuer un peu au début de semaine. Ben non, je prolonge un peu. Donc c'est-à-dire qu'entre lundi et mardi, alors même si c'est un petit peu loin, on se verra encore un petit peu de neige jusqu'en pleine. Alors peut-être en Île-de-France, peut-être dans le nord-est, en tout cas il y a un risque. Et ce n'est qu'en milieu de semaine prochaine qu'on aura un redout avec de nouveau de la pluie en pleine et de la neige en montagne.
Bah, vous avez illustré tout ça avec les quatre points cardinaux, il y a une espèce de logique.
C'est ça.
Merci beaucoup Lou Badin.
Bon week-end.
Bon week-end.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça au rythme du hip-hop ce matin à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Le breakdance compte de nombreux adeptes chez les jeunes des quartiers. Cette discipline née aux États-Unis, danse urbaine, hein, avec ses figures acrobatiques, sera présente d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré ces talents nordistes passionnés par cette danse de rue et qui rêvent de l'or olympique.
De l'extérieur, on perçoit des airs de musique rythmée s'échapper du gymnase du quartier du Moulin. C'est ici que l'école des danses urbaines Blacklist s'est installée. On y enseigne le breaking ou breakdance, une danse urbaine avec ses aspects acrobatiques. Martin et Matteo, deux jeunes champions, enchaînent les figures sur le parquet.
Sur la tête, ça s'appelle un head spin. Et juste après, j'ai fait une vrille coude. C'est le truc sur les coudes où j'ai sauté là.
Moi, je m'appelle Martin Lejeune, j'ai 18 ans et mon sport, c'est le breakdance. Ça fait presque 10 ans que j'en fais. Moi, j'ai commencé grâce à un pote à moi en fait qui en faisait dans la cour de récré en primaire. Le break, c'est un mix de beaucoup de choses en vrai. Moi, je pense que c'est un art et un sport en même temps.
Au départ, c'est un sport. Une passion. Maintenant, c'est ma vie, en fait. Matteo Dubar, j'ai 16 ans et je fais du breakdance depuis que j'ai 7 ans. Déjà, les mouvements sont spectaculaires et puis quand je dis c'est un art, c'est que c'est beau à voir, en fait.
Cette danse de rue née aux États-Unis, c'est un état d'esprit, une discipline assez physique qui a toujours vu émerger des talents dans le Dunkerquois. Abdel Mustapha est entraîneur coordinateur de l'équipe de France.
Grande-Synthe, c'est une terre du hip-hop et de cultures urbaines depuis des dizaines et des dizaines d'années. Parmi le graffiti, la musique, le rap, le DJing.
Pour rentrer au milieu,
il y a toujours eu des talents, que ce soit des filles, des garçons. Et là, aujourd'hui, à travers le break, on a des jeunes comme Kid Mario, Martin, qui sont en lice de haut niveau et qui sont potentiellement médaillables pour Paris 2024.
Tignasse blonde, basket et pantalon de survêtement, Martin Lejeune a déjà remporté une médaille d'argent au JO de la jeunesse en 2018. Ce Calaisien, un BB Boy, comme on dit, vise désormais Paris 2024, où le breakdance fera son entrée.
Ouais, c'est dans un coin de ma tête un petit peu quand même. Bah, on y pense, on commence à se préparer. Je fais ça tous les jours, donc c'est toute ma vie le breakdance. C'est un sport un peu Un peu compliqué, mais comme tous les sports, quand t'as envie de le faire, en vrai, t'y penses même pas.
Ça fait pas mal quand tu glisses sur la tête comme ça, là?
Non, ça va, ça fait pas mal. On a l'habitude maintenant. Mais faut faire attention pour pas avoir un trou dans les cheveux.
La ville de Grande-Synthe, qui s'investit pour soutenir ses associations, entend aussi servir de base arrière d'entraînement pour l'équipe de France de breaking.
Et chez les plus jeunes, Franck, la relève semble assurée aussi. Hein.
Oui, à la rentrée, malgré le contexte sanitaire très perturbant, les inscriptions ont grimpé en flèche, nous confirme la présidente de l'association Blacklist, Amina Amroussi.
On a vu une augmentation en fait suite à l'annonce de l'entrée du breakdance au JO. Je pense que ça va s'accroître au fil des années jusqu'à Paris 2024.
Il faut commencer le breakdance à partir de quel âge ?
Alors, on propose un cours d'éveil qui accepte les enfants à partir de 4 ans. Et après, il n'y a pas d'âge limite. Tant qu'on a la passion, on peut venir faire du breakdance chez nous.
Il faut avoir la forme quand même, hein, parce que c'est sportif. Hein.
Bien sûr, c'est à la fois une culture, c'est un art. La dimension sportive et du coup physique est très importante.
Sur la piste, de jeunes danseurs, breakers, garçons ou filles, essayent d'imiter les plus grands.
Si on continue à persévérer, etc., bah peut-être qu'un jour on pourrait faire comme eux.
Du coup, je voulais m'inscrire comme j'aimais bien.
Ça fait décompenser un petit peu les journées courtes et puis c'est agréable, c'est assez sportif quand même entre les figures et la choré.
Popularisé dans les années 80 à la télé avec Sydney, vous vous souvenez, cette culture hip-hop est aussi un vrai vecteur d'intégration dans ces quartiers pour Abdel Moustapha.
Pas plus tard que tout à l'heure, il y a un petit qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai le trac, j'ai pas envie de rentrer dans le cercle. Et là, il est rentré, il a fait son mouvement, il était content et c'est ça. Moi, j'étais une personne qui parlait pas beaucoup auparavant et le break, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer au-delà de l'expression corporelle. Et c'est des valeurs qu'on véhicule avec les jeunes. 5, 6. Et ça a pris une ampleur extraordinaire.
D'ici 2024, Martin, Mathéo et ces jeunes dunkerquois vont donc essayer de multiplier les compétitions et on en reparlera sûrement.
Ah, vous êtes comme ça qui donne la pêche ce matin avec les jeunes danseurs de Grande-Synthe. On espère les retrouver aux Jeux Olympiques dans 3 ans à Paris. Un reportage signé Franck Hanson à réécouter sur l'application RTL de votre smartphone.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h41 et ce matin, Isabelle Choquet, alors vous nous présentez le nouveau jouet des super riches. Attention, les squelettes de dinosaures.
Oui, c'est fini Yves, les œuvres d'art ou les toiles de maître. Le must aujourd'hui, c'est un T-Rex, ou plutôt ce qu'il en reste. Vous savez qui est devenu complètement accro ?
Non.
Je suis le maître du monde !
Wouhou ! Leonardo DiCaprio, j'ai lu ça dans Capital. En 2007, déjà, DiCaprio et Nicolas Cage avaient bataillé aux enchères pour un crâne de Tyrannosaurus bâtard, c'est son nom, excusez-moi. C'est Nicolas Cage qui l'avait emporté pour 230 000 euros, mais Léo n'a pas lâché l'affaire. Il se murmure même qu'il a acheté la star des dinos, le Tyrannosaurus Rex, adjugé à plus de 30 millions de dollars en octobre dernier chez Christie's à New York. Car dans le deal de dinosaures, il faut du grandiose. Comme à Drouot, le 3 octobre dernier. En vente, un allosaure de 150 millions d'années. Alors l'allosaure, c'est un peu le grand-père du T-Rex. Celui-là était quasi complet et franchement magnifique dans le genre. Hein. 10 mètres de long, 3 mètres et demi de haut, des dents, des griffes qui font peur. La bête était estimée entre 1 million et 1 million 200 000 euros. Elle est partie à plus de 3 millions. Mais à part DiCaprio, qui donc claque son argent dans de vieux nonos ? Généralement, dit le commissaire priseur Alexandre Gicchello, c'est un homme fortuné qui veut créer chez lui un effet waouh. D'ailleurs, les clients sont plus portés sur les carnassiers que sur les herbivores parce que les herbivores, c'est moins spectaculaire. Il n'y a pas de grands collectionneurs, comme pour la peinture. On compte quelques centaines d'acheteurs dans le monde, mais ils se limitent à une ou deux pièces. En clair, on s'offre un dino pour épater les invités quand on fait une soirée. Ils entrent dans les halls et là, ils font
« Waouh !»
Ça marche aussi avec un Picasso ou un Renoir, mais il faut que les visiteurs s'y connaissent un peu en peinture et ça, c'est pas gagné. Cette mode du paléontologique, elle est apparue après-guerre avec les fougères et les os fossilisés, mais le vrai boom et l'intérêt pour les squelettes complets, ça remonte à une dizaine d'années. À cause de quoi ? À cause de ça.
Je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Bienvenue à Jurassic Park.
Et oui, Jurassic Park. Dès qu'on organise une vente, dit Gicchello, les gamins demandent « C'est un vélociraptor ?» Ils le connaissent tous, c'est l'effet Spielberg. Pour un beau dinosaure, comptez plus d'1 million d'euros et 5 000 euros pour une dent de T-Rex. Juste une dent. En fait, c'est simple. Plus le squelette est complet, plus il est cher. Et souvent, un squelette est reconstitué à partir de plusieurs animaux. Mais l'important, c'est que la provenance des pièces soit certifiée. Les riches clients ne veulent pas de mauvaise publicité. Pour éviter les embrouilles, la maison Binoche et Gicchello se fournit exclusivement dans les les Badlands, une région des États-Unis entre les Rocheuses et les Grands Lacs. Là-bas, tout ce qu'un chercheur trouve sous terre lui appartient. Il y a d'ailleurs des sociétés spécialisées dans la recherche de fossiles. Les pièces sont toutes traçables avec un relevé GPS du lieu de la trouvaille. Cela dit, le business des dinos, ça fait débat. Un spécimen rare ou inconnu a tout de même plus sa place dans un musée que dans le salon d'un acteur. Sauf qu'aujourd'hui, les musées n'ont pas toujours les moyens. En France, terrain public ou terrain privé, c'est toujours l'État qui est propriétaire des fossiles. L'État qui a aussi un droit de préemption dans les ventes. Ça, c'est une spécificité française. Une fois le marteau tombé, il peut encore acheter au prix de la dernière enchère. Quand ça arrive, dit Alexandre Gicchello, le dernier enchérisseur est plutôt surpris, plutôt mécontent aussi. Un jour, un client américain m'a dit « La France, c'est vraiment un pays communiste ». Les squelettes de dinosaures, nouveau jouet des riches, article à lire dans Capital.
Du leitmotiv que dit le patron du parc qu'on entendait tout à l'heure, à chaque fois qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui pose une question, c'est « j'ai dépensé sans compter ». Donc c'était bien le cas. « J'ai dépensé sans compter » et dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard. Merci Isabelle Choquet, à lundi.
À lundi, bon week-end.
7h, 9h30. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi.
Charmante.
Bonjour tout le monde. On retrouve maintenant Polymécon, Polymicon, l'émission de débat et de controverse animée par notre ami Jean-Michel Apathy.
Cher .es téléspectateur .trice, bienvenue dans mon nouveau numéro de Polymicon Polymicon, l'émission de débat inclusive qui sonde le fondement de la société française. Aujourd'hui, nous allons discuter du monde d'après le coronavirus, car d'ores et déjà tout le monde s'accorde à dire que rien ne sera plus comme avant. Pour en débattre, je reçois aujourd'hui Jacqueline Delarey, présidente de l'association Oser le Parisianisme, et l'écrivain, philosophe, académicien un peu crispé, il faut le dire, Alain Finkielkraut, président du collectif Taisez-vous, pauvre conne. Jacqueline Delarey, vous avez déclaré, je cite, que pendant l'épidémie, vous aviez quitté Paris pour vous réfugier à l'île de Ré, où vous rédigez votre journal de confinement. Pourquoi cet exode rural, Jacqueline Delarey, est-ce pour fuir vos voisins qui se prennent pour Bob Sinclair sur leur balcon?
Voilà, alors ça c'est typiquement une question de vieux mâle blanc qui n'a rien compris aux enjeux de la crise du coronavirus. Moi, si j'écris mon journal de confinement à l'île de Ré, c'est pour aider les gens à réfléchir.
Jacqueline Delarey, pensez-vous sérieusement que vos aventures à vélo sur l'île de Ré publiées dans votre blog intéressent les urbains confinés et les personnels soignants en pleine déroute sanitaire?
Tout à fait. Il faut montrer qu'on est solidaire, surtout si on n'est pas là.
Alain Finkielkraut, je vous vois tousser dans votre coude et vitupérer sous votre masque. Je présume que vous souhaitez intervenir. Madame Delarey, j'ai le regret de vous apprendre que nous n'avons que faire de vos élucubrations de parisienne expatriée et de surcroît moralisatrice de circonstances. Ce qu'il faut absolument, c'est s'efforcer de penser cet arrêt du monde comme une opportunité pour le rebâtir.
Mais justement, ce qu'on veut quand on reviendra à Paris, c'est rebâtir les voies sur berge pour y mettre des food trucks solidaires.
Gna gna gna, taisez-vous, pauvre conne. Je crois que nous avons contribué à éclaircir les enjeux philosophiques du débat qui accompagne cette crise sans précédent, je le redis. Si vous avez un avis, les traitements contre le coronavirus, n'hésitez pas à poster vos essais personnels de chloroquine à la maison. Nous vous enverrons une photo dédicacée du professeur Raoult.
Le journal Libération note que les femmes sont souvent en première ligne dans cette crise du coronavirus et le journal de s'interroger, féminisme et confinement, vont-ils bien ensemble? Une question qui a mobilisé nos amis les déchiens.
Ah. 3615, code qui n'en veut du confinement, avec aujourd'hui mon gars Bruno Lochet. Comment t'appelles-tu, mon Bruno?
Bruno Lochet.
Voilà. Alors, mon Bruno, comment ça se passe, ce confinement, et particulièrement avec... ton épouse, Madame Lochet, qui, on le sait, n'est pas toujours très commode. Hein. Elle n'est pas commode, Madame Lochet. D'autant, d'après ce que j'ai entendu, qu'elle est féministe.
Ah ben moi, je suis ravi, s'il n'y avait pas de risque pour la santé, moi j'irais jusqu'à embrasser un pangolin sur la bouche, tellement que le confinement, ça se passe bien avec ma femme.
Alors là, tu m'épates, mon Bruno. Et comment, comment que ça se fait que ton confinement avec Madame Lochet soit aussi... comment qu'on dirait... idyllique.
Ça doit être l'amour, hein. Parce que depuis le début du confinement, ma femme passe un tiers de sa journée à faire la cuisine. Alors moi, je mange des bons petits plats. Le deuxième tiers à faire le ménage, hein. L'autre jour, j'ai surprise à nettoyer les plinthes avec du coton-tige. Et le dernier tiers à repenser mes chemises. J'ai jamais été aussi propre, moi. Oh, mais dis-moi, mais alors, où est passé son féministe, Madame Lochet? Je vois plus son féministe. Je sais pas si c'est un effet secondaire du corona machin, mais si c'est ça, je suis pas un patient qui trouve un vaccin. Oui, à la télé, ils disent que dehors, la nature a repris ses droits. Moi, j'ai l'impression qu'à la maison, c'est pareil. Hein. Et puis, elle fait même la couture. Elle qui savait pas faire un ourlet, elle a déjà cousu 123 masques avec mes vieilles chaussettes. Oh, là, mais je t'arrête, mon Bruno. En ces temps troublés, c'est à toi d'être un féministe et de ne pas laisser Madame Lochet faire tout le boulot à la maison. Je veux bien, mais dès que j'approche du fourneau, du placard à balai ou de la machine à coudre, elle me crie « Fous-moi le camp, abruti !» Alors, je vais me confiner dans ma chambre, devant mes feuilletons, avec une bière et que je décapsule moi-même. C'est mon geste solidaire, ça. Décapsuler la bière. Le geste solidaire décapsulé, elle a bien. Mais alors, j'ai envie de dire, qu'as-tu dans ton panier du féministe, qu'as-tu dans ton panier du féministe au temps du Covid?
Wow! Alors.
Fumier!
Bonjour Gérard Depardieu, c'est gentil de nous appeler.
Calvi est à côté de toi?
Oui, tout à fait, il est là, monsieur Calvi, fidèle au poste, il nous écoute, Gérard.
C'est bien. Avec sa bonne tête d'honnête homme qui mange et qui boit bien, lui au moins, il va me comprendre. Allez, Calvi, monte sur la table, lève le bras et crie avec moi. Il y en a marre du confinement, on veut du pâté, la charcuterie et du vin blanc. Il y en a marre du confinement, on veut du pâté, la charcuterie et du vin blanc.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, Gérard? Qu'est-ce qui se passe?
T'as pas lu West France? Un vrai journal, avec du vrai papier, qui laisse de l'encre sur les doigts des bonnes gens et dans lequel on peut mettre ses épluchures de patates. Voilà. Ces merdes de sites internet qu'on lit sur les écrans qui rendent aveugles et qui servent à rien. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un mettre ses épluchures de patates dans un ordinateur fumier.
D'accord, voilà, remonter. Je vois de quel article vous voulez parler. Il révèle que vous êtes confiné dans votre château du Maine-et-Loire et que des clients d'un supermarché vous y ont vu passablement énervé.
À cause de ce putain de confinement, tous mes restaurants et mes petits bistrots sont fermés. Et mes stocks de bouffe et de bons pinards, ils ont fondu, comme neige au soleil. Faut dire que je tourne à 3 pâtés de tête, 7 gigots et 4 litres de blanc par jour.
Ah oui, en effet.
Du coup, j'ai été obligé d'aller faire mes courses au mammouth du coin. Oh, les fumiers!
Mais que s'est-il passé?
Dans les rayons, que de la merde. Du jambon fluo sous cellophane qui brille dans la nuit. Des poissons congelés qui ressemblent à des carreaux de salle de bain. Et même des rillettes de poulet. Des rillettes de poulet! Pourquoi pas des ailes de bœuf pendant qu'on y est?
Il n'y avait pas de rayon bio?
Mais c'est encore pire. Des pâtes sans gluten et sans goût. Du fromage sans lactose qui sent rien. Et du vin sans sulfite qui fait de la mousse.
Oui, en effet.
Voilà pourquoi je demande à Macron qu'il prenne des mesures.
Oui, c'est ce qu'il a prévu de faire, des mesures pour sauver l'économie.
On est français, nom de Dieu. On s'en fout de l'économie. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vraie charcuterie. Et du pinard digne de ce nom. Allez, Calvi, avec moi. Macron, on veut du cochon, de la niche et du fromton. Macron, on veut du cochon, de la niche et du fromton.
Tout cela nous fait un très beau programme pour le week-end, vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, le week-end, vous retrouvez Laurent, Jade et toute l'équipe à 6h15 avec Christophe Paco et à 7h50 avec Stéphane Carpentier. Ils sont fidèles au rendez-vous. Dans un instant, Cyril Lignac, que je salue.
Bonjour.
Bon, je vais aller, petit suspense, mais en tout cas, ce sera sucré et agréable.
Ah oui.
Hein, voilà. Et aérien, d'une certaine façon.
Léger.
Léger. Allez, à tout de suite.
Peugeot.fr.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce week-end, je veux devenir le roi du soufflé au chocolat. J'ai du beurre, des œufs, de la farine, du lait, du chocolat et un peu de sucre, mais pas trop. Tu me donnes un coup de main? Voilà, la question est signée Valentin et il vous a écrit de Marseille.
Alors, avec plaisir, bien entendu. Alors, déjà, dans les soufflés, il y a les soufflés sucrés et les soufflés salés. Ouais. Dans les soufflés sucrés, il y a deux types. Il y a le soufflé au chocolat, qui est le soufflé pour moi le plus facile, parce qu'on peut le préparer à l'avance, le mettre au frigo, le cuire, le faire le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain midi.
Ah bon,
ça ne bouge pas, parce que le chocolat bloque. Et donc on peut le cuire, on peut le garder dans le frigo, et on le cuit au dernier moment. Ce qui n'est pas le cas d'un soufflé au Grand Marnier, au citron ou à l'orange, parce qu'il faut faire la crème pâtissière, les blancs, et vite cuire au four, tout de suite. Alors, on fait 250 grammes de chocolat qu'on fait fondre avec 50 grammes de beurre. À côté, on monte 8 blancs en neige. Quand ils sont bien montés, on les serre, c'est-à-dire on ajoute 80 grammes de sucre pour les meringuer. À ça, on ajoute, ça fait rigoler tout le monde, 3 jaunes d'œufs dans les blancs. Mm-hmm. Ça nous fait des blancs montés en neige jaunes. Et ensuite, on laisse, bien entendu, refroidir notre préparation à base de chocolat et de beurre. Et ensuite, on mélange et on incorpore délicatement les blancs d'œufs montés en neige avec...